Quand il y a autant d'enjeux, que l'erreur n'est plus une option, quand son destin se joue en deux matchs, qu'il ne reste plus que quelques marches à gravir pour atteindre le sommet de l'Europe, le football devient encore plus intense. Retrouvez les demi-finales de l'UEFA Champions League avec Dortmund, Paris SG, ce soir à 21h sur Canal+ et Canal+ Foot. Rendez-vous sur boutique.canalplus.com.
Vous écoutez
RMC. RMC Intégral Sport.
Flora Messi.
Et 13h03 sur RMC. Salut à tous. C'est parti pour l'Intégral Sport jusqu'à 15h avant de laisser la main à Christophe Cessieux pour la suite de l'après-midi. Manu Amoros, membre de la Dream Team Foot d'RMC, est avec moi aujourd'hui. Salut Manu.
Salut Flora, bonjour à tous.
Tout va bien?
Bah, tout va bien, impeccable.
J'espère.
Ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait le 13h.
Mais oui, tu sais quoi, ça fait très longtemps. Je suis ravie de te retrouver.
Moi
parce
aussi.
Qu'on va parler de l'équipe de France aujourd'hui à la veille de son deuxième match de qualification à l'Euro 2024. Les Bleus se déplacent en Irlande demain soir après la très belle victoire face aux Pays-Bas. Les hommes de Didier Deschamps sont sur un petit nuage. Est-ce qu'on ne s'emballe un petit peu pas trop? On attend la confirmation. Supporters des Bleus, on vous attend au 32-16. Elle a été le sourire du biathlon français cet hiver. Julia Simon, vainqueur du Gros Globe de Cristal, sera notre invitée tout à l'heure. On reviendra avec elle sur sa merveilleuse saison et sur ses ambitions pour celles à venir. Et puis aujourd'hui, c'est le grand retour du MotoGP, premier Grand Prix de la saison à Portimao, au Portugal. Les Français Fabio Quartararo et Joan Zarco sont loin sur la ligne de départ. On vous donnera tous les enjeux avant le départ à 15h. Week-end de trêve internationale, vous le savez, on retrouvera l'équipe de France demain soir face à l'Irlande pour son deuxième match dans les éliminatoires à l'Euro 2024. Les Bleus, plus que convaincants hein, face aux Pays-Bas vendredi soir. Enfin, convaincant, est-ce l'avis de Manu Amoros? On va le savoir dans quelques instants. Et puis, on attend le vôtre aussi au 32-16 pour vos réactions. D'abord, Manu, j'ai envie de t'entendre sur cette belle victoire de l'équipe de France face aux Pays-Bas. Premier match post-Coupe du Monde, est-ce qu'ils t'ont convaincu?
Alors, oui. Parce que il y a quand même la manière et le résultat. Après, il y a des choses à encore améliorer au niveau bloc défensif et bloc offensif. Je trouve que Griezmann est un peu bas sur le terrain et devrait être un peu plus haut. Donc, il y a des choses à améliorer, mais c'est un bon départ. La réussite a été là puisque on mène 2-0 au bout de quelques minutes. Donc ça a avantagé l'équipe de France et ça a mis dans une situation très 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 compliquée les Pays-Bas, mais il faut pas s'en plaindre, au contraire, tant mieux pour nous.
Ouais, est-ce que toi tu fais plus partie des euphoriques après cette belle victoire ou alors à l'inverse de ceux qui sont un petit peu plus mesurés, parce que c'est vrai aussi que l'adversité en face, elle était pas énorme, c'est une équipe des Pays-Bas un petit peu remaniée quand même.
Oui, mais bon, ça fait rien, ça enlève pas quand même la qualité de l'équipe de France. Les Pays-Bas a quand même une belle équipe, même s'il y avait pas mal d'absents. Il fallait quand même marquer 4 buts à cette équipe, c'était pas facile. Et puis on a vu une équipe de France qui a manqué pour moi un peu énormément de collectif. Je trouve qu'on a trop eu des situations où quand on avait le ballon, on cherchait trop rapidement Mbappé pour qu'il fasse la différence. On a moins vu Coman sur le côté déborder. Et centré éventuellement pour un Giroud, mais il y avait Kolo Muani qui était là et lui il aime plutôt prendre des espaces, donc ça a un peu gêné je pense Coman dans cette situation. Bon, mais après il faut que ces joueurs là parlent entre eux et arrivent à trouver le bon ingrédient pour qu'ils puissent jouer ensemble.
On t'en a parlé justement de Kylian Mbappé, évidemment scruté dans ce match face aux Pays-Bas parce que premier match pour lui en tant que capitaine de l'équipe de France. Ça lui va bien tu trouves toi ce Brassard, Kylian Mbappé?
Bien sûr, ça lui va bien. C'est pas parce qu'il est jeune qu'il peut pas être capitaine de l'équipe de France. C'est un leader. C'est un leader dans cette équipe. C'est un joueur qui est très respecté dans le groupe. Donc c'est tout à fait normal et logique qu'il soit capitaine. Après, s'il avait pas été, peut-être qu'il aurait fait la gueule aussi, hein. C'est pas non plus, hein. Mais bon, on a entendu que Griezmann faisait un peu la tête parce qu'il espérait être le capitaine. Mais bon, je crois que on en a beaucoup parlé, je trouve, dans les journaux, dans tout ce qui est radio, mais ça a pas de valeur d'être capitaine de l'équipe de France. Ça a une valeur, bien sûr,
parce
que c'est symbolique, c'est très important d'être capitaine d'une équipe de France. France, mais chaque joueur sur le terrain doit être un capitaine. Si Mbappé doit remettre en place quelqu'un parce qu'il est mal placé par rapport à la situation de jeu, s'il y a quelqu'un d'autre qui est mal placé, qui est mieux placé qu'Mbappé pour dire voilà, replace-toi par là parce qu'on a un problème de ce côté-là, ben voilà, il faut que tout le monde soit un leader et un capitaine. Après, vous savez, pour signer une feuille de match, serrer la main aux arbitres, serrer la main au capitaine adverse. Bon, après, c'est vrai que lui, il est quand même un joueur très respecté dans le groupe et c'est bien pour lui. Et je pense qu'il va l'être longtemps parce que bon, à 24 ans, capitaine déjà.
A priori, son avenir en équipe de France est assez radieux, effectivement, ouais. Et lointain. En tout cas, c'est vrai qu'il a ce rôle de leader, brassard ou non au bras d'ailleurs à Kylian Mbappé, et qui, tu vas le voir, Manu, assume les ambitions de cette équipe de France pour l'Euro à venir. C'était au micro de TF1 ce matin.
C'est clair que quand tu regardes le papier, moi je me mets à la place des gens qui sont devant leur télé et ils se disent comment on va faire pour pas gagner. On n'a pas de problème à dire qu'on joue dans les meilleurs clubs du monde, qu'on a peut-être des joueurs qui font partie des meilleurs à leur poste, mais c'est à nous maintenant de créer ça, parce que voilà, on avait ça, mais il y a beaucoup de joueurs qui sont partis. Il faut le recréer et repartir de l'avant pour gagner des titres et des choses importantes. L'objectif dans un premier temps, c'est de se qualifier pour 7 euros et après bien sûr ça sera d'essayer d'aller le gagner.
C'est rare quand même, Manu, d'entendre, surtout de nos jours, d'entendre des joueurs qui assument aussi totalement les ambitions d'une équipe, cette franchise aussi qui caractérise Kylian Mbappé, c'est important aussi.
Ben, c'est un joueur qui prend toujours ses responsabilités et ça date pas d'aujourd'hui. Quand on voit la maturité qu'il a depuis qu'il a débuté au football, hein, parce que quand on regarde ses interviews, quand on le voit sur le terrain, on a l'impression que c'est un joueur qui est là depuis pas mal d'années. Donc non, moi je trouve que c'est très bien. Un joueur qui est exemplaire en dehors du terrain, même sur le terrain. Alors après, bien sûr que on aimerait qu'il en fasse plus, qu'il soit un peu moins
On en attend
égoïste.
Beaucoup, en fait, c'est ça aussi. On a énormément d'attentes.
Ben, des grands joueurs. Ouais, mais Flora, des grands joueurs, on attend toujours plus. Hein. Moi, j'ai connu Platini, on attendait énormément et il a donné tout ce qu'il a pu. Mbappé, c'est pareil. Zidane, ça a été pareil. Donc, on attend énormément de ces joueurs-là qui sont dans le feu de l'actualité et dans le football. Donc, non, moi, je trouve qu'il a une maturité exemplaire et qui mérite de loin d'être là où il est et étant le capitaine de l'équipe de France.
13h10 dans l'Intégral Sport sur RMC avec Manu Amoros. On parle de cette équipe de France et avec Ahmed qui est avec nous au 32-16. Salut Ahmed, merci d'être avec nous.
Oui. Salut Ahmed.
Bonjour, merci de me donner la parole.
On parlait de Kylian Mbappé, ce rôle de capitaine. C'était une évidence pour toi aussi de le donner aux Parisiens?
Bah oui, parce que c'est celui qui a le plus les épaules. C'est celui qui a commencé à avoir de l'ancienneté. Il a un bon français, il a un bon phrasé, parce qu'il faut quand même répondre aux journalistes. On voit qu'il est super
habile.
Il est
à l'aise, ouais.
Il est à l'aise et il y a des questions pièges souvent, hein, les journalistes qui cherchent la petite
bête. C'est pas notre genre, vraiment.
La question que je me pose, c'est est-ce que ça va pas lui mettre la pression dans son jeu? C'est ça la question. Comment il va jouer gérer les deux?
Ouais, c'est vrai, Manu, qu'on peut se poser cette question parce qu'on l'a vu dans les grands matchs. Il a envie tellement d'en faire, finalement, Kylian Mbappé, que parfois, il en oublie, comme tu l'as dit, un petit peu les autres autour de lui parce qu'il a envie que ce soit lui qui fasse la décision.
Oui, mais je crois que ça va pas le perturber. Ça y est, il est capitaine de l'équipe de France et puis il va mettre en application son jeu que l'entraîneur va vouloir. Moi, ce que je peux lui reprocher, c'est que de temps en temps, il ne permute pas à aller sur le côté droit. On le voit sur le côté gauche, il reste en permanence sur le côté gauche. Alors, des fois, avec Oman, si on prend le dernier match contre les Pays-Bas, ils ont pas assez permuté pour mettre en difficulté un peu plus cette défense des Pays-Bas. Mais bon, après, s'il se sent bien sur ce côté-là et que il amène le danger et qui marque des buts, franchement, il y a rien à lui reprocher. Et puis, c'est à lui à faire la différence. Comme on disait, on attend énormément de lui et il supporte cette pression. Parce que, comme on disait, il est mature. Donc, de quelqu'un qui est mature, il arrive à supporter cette pression. Et par rapport aux journalistes et tout, quand tu l'écoutes, il est très bien dans ses interviews. Il est calme, il est posé, il répond très bien.
Ouais, il est toujours très attentif aux questions que peuvent poser les journalistes. On parlait de ces journalistes un petit peu pointilleux, Ahmed, parfois. C'est vrai qu'il y a eu tout ce débat avec Antoine Griezmann, qui s'attendait aussi peut-être à être capitaine. Est-ce que toi, tu l'aurais donné, tiens, plus à Antoine Griezmann ou à Kylian Mbappé, ce brassard de capitaine?
Non, parce que je pense que j'aurais quand même donné à Kylian, parce que Griezmann est dans une période de sa carrière qui est pas simple. Il a eu un échec au Barça, il est à l'Atlético où il réussit bien cette année, mais il a été discuté avant. Kylian, il a un parcours professionnel qui est beaucoup plus stable à gérer parce qu'on sait qu'il est au PSG et demain il ira dans un grand club. Donc il n'a pas ce souci-là. Mettre ce poids sur les épaules de Griezmann, qui est dans un moment de sa carrière, c'est pas facile. Ça aurait pas été un cadeau pour lui tout
de suite. Ça lui aurait pas redonné un peu confiance aussi, tu penses, avoir recentré son rôle pour lui en équipe de France, qui a été un petit peu effacé malgré tout par l'arrivée de Kylian Mbappé
il
aussi.
Il a été au Barça, il a pas montré beaucoup de confiance, donc c'est pas vraiment le gars sur qui il faut mettre trop de poids à mon avis.
Ouais, mais t'imagines s'il faut être capitaine de l'équipe de France pour pouvoir s'exprimer sur un terrain, bah c'est compliqué quand même, non?
Ouais, mais tu prends Kylian, tu vois, il a un phrase qui est tranquille, mais il a une carrière qui est tranquille aussi. Tu prends Lloris avant, bah, il était gardien quasiment titulaire tout le temps dans son club. Il était en équipe de France gardien titulaire, il était tranquille. Et c'est pas un poste facile, capitaine d'équipe de France. Faut pas prendre quelqu'un qui est dans un parcours professionnel où il sait pas où il sera l'année prochaine, par exemple.
Oui, mais comme tu disais, peut-être que la pression Kylian, il arrive à la maîtriser, à la contenir, alors que peut-être Griezmann, ou on l'a vu avec Lloris, ben il y a des fois la pression de notre capitaine, oui. Ça faisait pas tout et il passait à travers de ces matchs-là. Alors que lui, il est tranquille. J'ai l'impression que même en étant capitaine, il a sa façon de faire, il a sa façon de jouer. Il est dans sa bulle et il reste dans sa bulle.
Oui, et puis faut pas oublier, bon, après il aime bien jouer à gauche, c'est vrai qu'on lui reproche, mais même au PSG, il pense à gauche tout le temps. Donc là, je pense qu'avec Kolo Muani, on a trouvé avec Coman, on a trouvé une relation qui est très intéressante, de joueurs un peu de la même génération qui on joue contre, hein, on voit Deschamps, il joue plutôt le contre, hein, maintenant. Il laisse le ballon et il sait que devant il a des tueurs.
Bah, il a de la vitesse, hein. Donc ouais.
Voilà, il a de la vitesse et c'est très intelligent. Donc Kylian, il a l'équipe qu'il veut en fait.
Ce rôle de leader, tiens Manu, j'ai envie de parler aussi avec toi de Mike Maignan, qu'on a retrouvé dans les buts, nouveau numéro 1 de l'équipe de France. Je ne sais pas si tu as vu passer cette vidéo dans le vestiaire. Il a fait un discours aussi avant le match. Et lui aussi, il a ce rôle de leader qu'il peut apporter sur le terrain.
Mais je l'ai dit, Flora, tout le monde a un rôle de leader par rapport au positionnement où on est. Maignan, bien sûr que c'est un super gardien. C'est dommage qu'il ait pas pu faire la Coupe du Monde parce que il aurait pu seconder Lloris. Donc à partir de là, on a d'excellents joueurs. Après, il faut que le sélectionneur et l'entraîneur arrivent à mettre en place sur le terrain ces bons joueurs. Il faut être complémentaires les uns et les autres. Et c'est vrai que, comme disait Ahmed, Didier Deschamps, qu'est-ce qu'il demande à ses joueurs? C'est de se replier un tout petit peu et de faire un bloc défensif assez haut quand même et aller chercher après le ballon pour donner de la vitesse à son jeu une fois qu'on l'a récupéré. Mais oui, il y a une grosse dynamique dans cette équipe-là.
Ahmed, ton avis, toi, sur Mike Maignan, l'équipe de France a trouvé là son gardien pour les 10 prochaines années, allez?
C'est simple, hein, le penalty, il l'a arrêté. Vous n'aurez jamais vu Lloris arrêter un penalty, c'est pas son truc. Hein.
Donc, il y a d'autres, c'est des qualités différentes, voilà, on va dire ça comme ça.
Parce qu'il va en prendre aussi des penalties, faut pas croire. Hein. Il va pas tous les arrêter. Hein.
Non, mais c'est sa force quand même.
Oui, bien sûr. Il arrive à lire la course du joueur qui va tirer le penalty et de savoir à peu près où il va la mettre. Donc ça, c'est important aussi. La lecture d'un gardien est très importante.
Ouais, et puis là, on parle sur les penalties, mais il y a aussi son jeu au pied qui est très intéressant pour l'équipe de France. Ça apporte vraiment un plus pour les Bleus.
Oui, et puis il est tonique sur sa ligne. Hein. Il jump bien, donc. C'est quelqu'un qui va apporter beaucoup à l'équipe de France. Puis il n'est pas nouveau, je veux dire, il est dans le haut niveau depuis un moment. Hein. Donc Lloris, il a fait sa carrière, il ne faut pas critiquer, attention, c'est un grand gardien. Mais on a de la chance d'avoir un vivier de football aussi fort, parce qu'on peut tout de suite puiser sur la Mike Maignan.
Oui, c'est vrai que quand on regarde quand même, Manu, à peu près à tous les postes, parce que j'avais envie de parler aussi avec toi, le défenseur, de cette charnière qu'on a trouvée après l'Euro, après la Coupe du Monde, pardon, Konaté ou Upamecano. Elle te plaît, toi, cette charnière? C'est vrai qu'elle est assez solide et fallait aller la chercher quand même et la trouver, cette association. Hein.
C'est pas compliqué. Les deux joueurs ont quand même joué dans des grands clubs européens. Donc à partir de là, du moment qu'ils sont performants avec leur club, il y a pas de raison qu'ils se retrouvent pas en équipe de France et qu'ils soient associés. Il y a aujourd'hui un tournant en équipe de France. Il y a une équipe qui va ressortir par rapport à la Coupe du Monde 2022. Donc à partir de là, c'est à Deschamps à mettre les joueurs qui était, je dirais, parce que Konaté était quand même un peu plus remplaçant qu'Upamecano, et que cette association, aujourd'hui, elle se crée, elle va aller de plus en plus jouer dans les matchs et avoir une association et des automatismes entre eux qui vont très bien fonctionner, et ça va être une paire de centraux qui va être performant tout le long de la carrière d'eux-mêmes, et puis en équipe de France, on est super content de les avoir, parce qu'ils sont bons quand même.
Hein. Ouais, Ahmed, toi, le supporter du PSG, Pour Presnel Kimpembe, là, ça va être dur de retrouver une place après s'il arrive à retrouver son meilleur niveau.
Alors oui, moi je pense que sa blessure elle est quand même très grave. S'il arrive déjà à revenir au football, ce sera énorme.
Il y a une rechute très vite derrière, donc forcément oui, c'est inquiétant.
Ouais. Puis le talon d'Achille, c'est chaud. Donc,
C'est chaud, ouais.
C'est chaud.
C'est 3-4 mois avant de revenir. Ahmed, pourquoi il recrute pas le Paris Saint-Germain ou Pamecano ou Konaté parce que dans l'axe central, il y a quand même des problèmes.
Moi, je pense qu'ils vont déjà regarder. Moi, déjà Rabiot, par exemple, qui prend une dimension quand même incroyable dans cette équipe de France et à la Juve.
Ça donne des regrets au PSG, j'ai l'impression. Hein.
Ouais, surtout qu'il a ouvert la porte là récemment, donc il est libre. Lui, contrairement à Verratti, il est parti à l'étranger, il a prouvé. Ouais, il n'est pas resté dans son cocon et il a vraiment un impact au milieu de terrain, Rabiot qui est très fort. Je sais qu'ils sont sur Osimhen. L'année prochaine, l'équipe elle va changer. Hein. Je pense que le nouveau coach qui va arriver, si c'est Zidane, l'équipe va complètement changer. Ils vont reconstruire autour de peut-être Colomani. Je pense qu'il y aura des gros changements. Mbappé aura l'équipe qu'il veut l'année prochaine.
Ahmed, le problème, c'est que si Messi re-signe et il va y avoir toujours Neymar, il va toujours éventuellement avoir Mbappé. Donc, tu peux, Osimhen, tu peux le faire venir, mais il va jouer, il va pas jouer. Tu fais comment avec les trois stars que tu as?
Moi, je pense que Messi ne sera pas prolongé. Je pense que Messi ne sera pas prolongé. C'est un jeu de pièces de théâtre. On lui laisse l'honneur de dire que c'est lui qui prolonge pas. Mais je pense que Paris ne veut pas prolonger. Et Neymar, ils vont tout faire pour le faire partir. Donc, il le sait, Neymar, l'équipe, elle est parfaite pour lui. Même si on regarde Neymar en 10, tu mets Mbappé à gauche et aussi Mène à droite, t'as une putain d'attaque, hein.
Ah oui, c'est sûr, oui. Oui, bien sûr.
Mais tu peux pas jouer avec Messi et Neymar. Les deux sont incompatibles.
Bon, c'est un autre débat, tout ça, messieurs. On était sur l'équipe de France. Merci beaucoup, Ahmed, d'avoir été avec nous aujourd'hui dans l'Intégral Sport sur RMC. Manu, on va continuer d'en parler de l'équipe de France dans quelques instants, évidemment. Et puis on va parler aussi avec toi dans l'Intégral Sport de l'Angleterre et de l'Italie qui jouent ce soir. Les deux se sont affrontés vendredi ou jeudi soir, je ne sais plus, un des deux soirs. Et bien, il y a beaucoup de choses à dire sur ces deux équipes avec nos ambassadeurs qui seront avec nous. A tout de suite dans l'Intégral Sport, il est 13h20 sur RMC.
RMC, Intégral Sport.
Flora Messi.
13h22 sur RMC, merci d'être avec nous dans l'Intégral Sport. On est toujours avec Manu Amoros. Avant de parler de l'équipe de France, tout à l'heure, on va évoquer l'Italie et l'Angleterre qui jouent ce soir. Mais d'abord, c'est l'heure du défi hippique sur RMC.
RMC.
Défi hippique.
Salut Frédéric Kita.
Salut Flora, salut Manu, salut à tous.
Salut Fred.
Aujourd'hui, quinte. D'accord. Le quintet se dispute sur l'hippodrome d'Auteuil aujourd'hui avec 14 sauteurs âgés de 4 ans qui s'affronteront sur les haies sur la distance de 3600 mètres. Et dans ce quintet plus, pour l'instant, le favori, c'est le numéro 1, Loufast. Est-ce que toi, Manu, tu as un cheval à conseiller dans cette épreuve? Est-ce que tu as regardé un petit peu?
Écoute, j'hésite entre deux, le 10 et le 4. Je vais plutôt prendre le 10, Il of Bambo.
Et ça, Il of Bambo, donc le numéro 10. Alors normalement, on a un parieur au 32-16 tous les jours pour défi hippique. On ne l'a pas actuellement en ligne, mais en tout cas, on connaît son choix. Il a choisi le numéro 1, Loufast. Donc c'est un concurrent qui fait bien dans cette catégorie et qui est performant sur l'hippodrome d'Auteuil. Et il est là, donc Morgane, salut Morgane.
Oui, bonjour.
Ah, bon, on a failli pas t'attendre.
Désolé,
hein, j'ai dévoilé ton cheval, mais vas-y, est-ce que tu peux nous en dire deux mots?
Oui, j'ai choisi le numéro 1, Loufast, parce qu'il est performant sur ce parcours et dans les handicaps, et il devrait de nouveau répondre présent aujourd'hui, je crois.
D'accord, c'est noté, Morgane.
Il y a le poids quand même, hein, il y a le poids.
Alors, 72 kilos à porter. Hein. C'est vrai que c'est pas facile, surtout dans ce type de terrain, mais c'est un concurrent qui est très performant et qui peut quand même, je pense, se classer dans le quintet. La dernière minute RMC, ce sera le numéro 13, le Roi David, qui a surpris dernièrement en terminant deuxième de la course de référence devant le numéro 10, Il of Bambou, et également l'As Loufast. Donc logiquement, les trois chevaux qu'on a cités ont une belle chance. Je rappelle la règle, hein, si l'As Loufast termine devant le numéro 13, le Roi David, Morgane, tu seras de nous être demain. Je te souhaite bonne chance, un bon quintet à 15h15 sur RMC.
PMU. Que les meilleurs gagnent. Jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Merci beaucoup.
Merci Flora. Merci Manu. À plus.
Merci.
L'équipe de France, vous le savez, joue demain soir face à l'Irlande à Dublin, son deuxième match de qualification à l'Euro 2024. Mais il y a d'autres matchs au programme encore ce soir, et notamment celui de l'Italie face à Malte à 20h45. Johan Crochet, notre ambassadeur italien, est là pour en parler avec nous. Salut Johan.
Bonjour Flora, bonjour. Salut Manu, Johan. Bonjour à toutes et à tous.
On s'intéresse à l'Italie parce qu'il y a de quoi être un petit peu inquiet quand même, Johan, après cette défaite face à l'Angleterre 2-1. On a vu vraiment une équipe en manque d'idées, hein.
Ouais, clairement. Alors, ça dépend comment on analyse le match. La première mi-temps est vraiment pas bonne. Et d'ailleurs, Roberto Mancini l'avait souligné dès la fin du match en disant on est une équipe qui ne peut pas se permettre d'être attentiste et de pas avoir un jeu assez élaboré parce qu'il n'y a pas des individualités suffisamment fortes pour sauver un peu cette équipe quand elle n'a pas de jeu. Donc, il faut une équipe qui est plutôt active, proactive, qui propose du jeu. Donc, ça, on l'a vu en deuxième mi-temps. Donc, la première mi-temps, elle est catastrophique. La deuxième mi-temps, elle est plutôt positive. Le problème de cette équipe d'Italie, c'est que depuis l'Euro, il s'est passé pas mal de choses et pas mal de mauvaises choses avec la non-qualification à la Coupe du Monde et qu'il y a il y a une sorte de pessimisme ambiant quand même en Italie autour de cette sélection parce que l'Italie a pas été habituée à rater deux Coupes du Monde d'affilée, tout simplement.
Ouais, et Manu, tu comprends, toi, ça, un petit peu, le fait que cette équipe italienne, on a du mal à la comprendre. Elle souffle un petit peu le chaud et le froid tout le temps. Depuis des années, on a l'impression qu'elle est en perpétuelle reconstruction, finalement.
Oui, Mancini n'arrive pas à trouver les bons réglages de son équipe parce que sur le papier quand même, Johan, il y a une superbe équipe qui peut jouer au football, il y a des très bons joueurs de qualité technique, de qualité physique, mais simplement elle n'arrive pas à jouer ensemble tout le long de match. La première mi-temps, comme tu l'as dit, ça a été catastrophique. Ils ont laissé beaucoup d'espace. Ils ont perdu beaucoup de duels, manque d'agressivité. Ils ont laissé les Anglais prendre le ballon et jouer eux tranquillement et aller inquiéter cette défense et ce bloc défensif italien qui pour moi qui est pas bon du tout. Donc Mancini, il faut qu'il voit un petit peu ce qui va pas et peut-être changer des joueurs qui n'arrivent pas à s'exprimer. On a vu Verratti qui malheureusement est passé à côté de son match.
Johan, puisqu'on parle de Roberto Mancini, parce qu'on est d'accord que ce serait une catastrophe de voir l'Italie ne pas se qualifier pour l'Euro, est-ce que ça signerait la fin de l'aventure de Roberto Mancini?
Oui, parce que bon, déjà de lui-même, parce que après cette non-qualification à la Coupe du Monde, lui avait pris le temps de la réflexion et on avait senti le soir de l'élimination entre guillemets contre la Macédoine du Nord en barrage que il était quand même pas loin de lâcher le poste et finalement il était resté. Donc de lui-même, je pense que effectivement il considérerait ça comme un échec au-delà même de ce que pense la fédération. Mais allez, on va essayer d'être un peu optimiste. Il y a quand même un groupe qui est abordable en dehors de cette équipe d'Angleterre et il y a largement le temps, la place de se refaire et avant de penser au pire, on va essayer de penser à des choses un peu plus positives avec le match de ce soir.
13h28. On pense pas qu'il aurait fallu avoir un renouvellement d'entraîneur, de direction, de staff pour redonner un souffle nouveau à cette équipe italienne après l'échec.
Je sais pas, Manu. Parce que, regarde, l'équipe d'Italie ne se qualifie pas à la Coupe du Monde 8 mois après avoir remporté l'Euro. Donc, je suis pas certain que.
Ouais, mais on vit pas avec le passé, Johan.
Ouais, non, mais je sais bien, mais on peut aussi se dire que la qualification, elle se joue à deux pénalties ratées par Jorginho lors des matchs de qualification. Donc, ça se joue tellement à rien. Et moi, je pense que Mancini est l'homme de la situation. Et de toute façon, il n'y a pas non plus 50 000 entraîneurs qui sont en capacité de faire mieux avec ce groupe parce qu'on va, on va y venir, Flora. Mais dans ce groupe-là, hormis le milieu de terrain qui est un secteur vraiment, pour le coup, très très fourni, où il y a beaucoup de choix avec des profils très différents. En attaque et en défense centrale, il peut pas faire de miracle, là, Mancini.
Ouais, justement, on va en parler. On est avec Johan Crochet, notre drôle de dame italienne, et Manu Amoros pour évoquer cette équipe italienne. Il y a un vrai problème d'abord d'attaque quand même en Italie, Johan. D'ailleurs, Roberto Mancini en a parlé. Il a dit il y a du talent, mais ils doivent jouer et ils ne jouent pas. Et cette phrase, elle est pas passée dans l'oreille d'un sourd parce que Mario Balotelli a pas du tout apprécié. Pourtant, ils s'aiment bien normalement les deux.
Oui, ils s'aiment bien, mais je pense qu'ils continuent à bien s'aimer. Mais bon, après Mario Balotelli, on le connaît. Je suis pas sûr qu'on doit vraiment.
C'est du passé.
Accorder beaucoup d'importance à ces paroles-là. Bon, voilà, moi, Balotelli, j'évite d'écouter ce qu'il dit et je regarde ce qu'il fait sur le terrain. Et malheureusement, on voit plus grand-chose, donc c'est un petit peu compliqué.
Mais il joue où d'ailleurs?
Il joue à Sion en Suisse.
Ah d'accord.
Voilà, et ça marchait tellement bien tellement bien qu'il y a des supporters qui brûlaient son maillot en tribune il y a pas si longtemps, donc ça se passe très bien.
Il suscite les passions Mario Balotelli il y a tout le temps. Mais en tout cas c'est vrai que quand même pour parler de ce problème d'attaque en Italie, on en parle parce qu'ils ont quand même été naturalisés l'attaquant argentin de base Matteo Retegui qui parle même pas italien encore. Ouais. Alors c'est quoi? C'est qu'il y a un manque de vivier derrière, il y a personne d'autre ou pourquoi se faire ce choix là?
Bon, alors deux choses. La première, c'est que c'est un bon joueur et que pourquoi ne pas regarder au-delà des frontières. L'Italie l'a toujours fait. On les appelle les Oriundi en Italie. C'est ces joueurs d'origine qui ont la double nationalité, on va dire d'origine étrangère.
Jorginho, par exemple.
Mais ouais. Comme Thiago Motta, comme Camoranesi, qui a été très important dans les années 2000 en sélection italienne, et beaucoup d'ailleurs en Argentine, au Brésil ou en Argentine d'ailleurs, c'est Zoriundi. Mais donc ça, la première chose, c'est que c'est un vrai bon joueur. Moi, j'en ai parlé à des recruteurs, j'ai regardé un peu, j'ai analysé son jeu en vidéo, et honnêtement, c'est vraiment un joueur intéressant, qui est jeune, qui est encore un peu brut de décrofrage, mais enfin jeune, il a 23 ans, mais qui est encore un peu brut, mais qui a un beau potentiel. La deuxième chose, c'est que Mario Balotelli dit, il y a plein de joueurs, il y a plein de bons attaquants en Italie et qui performent. Bah, je suis désolé, mais il doit pas regarder les matchs. Parce que, en fait, il y en a pas tant que ça. Et surtout, quand on parle d'attaquants, ce serait même pas trop des joueurs de côté où on peut trouver des joueurs comme Berardi, comme Chiesa, comme Politano. Donc, des joueurs qui sont plutôt intéressants. Mais, au poste de numéro 9, il faut pas se voiler la face, raconter n'importe quoi. Il y a un problème. Parce que, Scamacca, qui est parti à West Ham, ne joue quasiment pas. Alors ça, après, c'est le double discours de Mancini aussi. Il dit oui, n'hésitez pas à aller à l'étranger. Puis bon, quand il joue pas, il les fait pas jouer après en sélection, donc c'est un peu particulier. Mais derrière lui, il y a pas grand monde, quoi. Pinamonti qui a pas été appelé par exemple de Sassuolo, mais il a eu un début de saison très compliqué. Ensuite, il a été blessé. Ensuite, là, il commence à revenir, mais c'est pas extraordinaire. Donc non, le vivier est pas dingue. Et je vais même vous dire que au-delà même du vivier, en Italie, on a souvent eu des grands numéros 9. Voilà, et tout le monde peut citer les très grands numéros 9 de l'Italie. Dans les années 2000, c'était une dinguerie, etc. Sauf que quand on regarde en détail l'importance du numéro 9 dans l'équipe d'Italie, c'est pas si important que ça. Si vous regardez les deux derniers tournois gagnés en 2021 pour l'Euro 2020, le meilleur buteur de la sélection italienne, donc qui remporte l'Euro, est à 2 buts. Quand vous regardez en 2006, le meilleur buteur italien de la compétition, l'Italie gagne la Coupe du Monde en 2006, il est à 2 buts. Et pourtant, dans cette équipe d'Italie-là, en 2006, il y avait Francesco Totti, Alessandro Del Piero, Luca Toni, Pippo Inzaghi, Alberto Gilardino. Donc il y avait des attaquants de classe. Mais je vous donnais même un troisième chiffre, moi qui me fait toujours rire, à chaque fois je le sors parce qu'il me fait toujours rire. Depuis, sur les 20 dernières années, vous savez qui est le meilleur buteur de la sélection nationale? C'est Daniele De Rossi. Wow. Daniele De Rossi, c'est quand même un milieu de terrain, ouais. Et c'est pas un 10, hein. C'était plutôt un 6-8, un 6 qui a joué parfois 8 en sélection. Avec 21 buts. 21 buts sur les 20 dernières années. Le meilleur buteur, il est à ce total-là. Et pour vous donner une idée, Kane a battu le record, là, de Wayne Rooney, si je dis pas de bêtises.
Ouais, tout à fait.
Avec 54 buts, c'est ça?
Oui.
Olivier Giroud est le meilleur buteur de l'équipe de France avec 53 buts. Si on regarde un petit peu en sélection nationale italienne, le meilleur buteur, il a 35 buts, mais si on prend un joueur contemporain, donc pas des années 30 ou 70, c'est Del Piero avec 27 buts. Donc finalement, c'est la moitié de Kane et la moitié de Giroud. Donc finalement,
ça
le buteur,
pas d'aujourd'hui, ouais.
C'est tout relatif en fait, parce que quand il y avait des super buteurs, les Vieri, les Pippo Inzaghi, tout ce que vous voulez, les Viali, etc., finalement, ils marquaient pas tant de buts que ça. Donc, ok, il n'y a pas de vrai grand numéro 9, mais ça n'empêche pas, et on l'a vu à l'Euro, de gagner des compétitions.
Ouais, et ce qui est dingue quand même, ouais. Manu, c'est de faire cette réflexion sur l'équipe nationale, alors qu'on a trois équipes italiennes en quart de finale de la Ligue des Champions. Donc il y a ce décalage-là. Bah oui.
Ouais, c'est le paradoxe de les équipes nationales. Mais après, je dirais, est-ce que Mancini arrive à faire jouer son équipe dans un système qui convient à ses joueurs? Parce que là, il a fait un 4-3-3. Est-ce qu'il aurait peut-être pas dû changer en cours de match, en cours de première mi-temps où c'était pas bon du tout, à passer un 4-4-2 ou alors passer à 3 derrière, je sais pas, trouver des solutions pour que son équipe arrive à jouer ensemble. Quand on les voit jouer, ils n'y arrivent pas. Dans le collectif, c'est pas bon. Il y en a qui courent, il y en a qui courent pas, il y en a qui font des passes un peu de travers. On a l'impression qu'il n'y a pas d'âme dans cette équipe-là et c'est pour ça qu'il y a des mauvais résultats actuellement avec l'Italie.
Et juste, faire jouer autrement, moi je pense que c'est le meilleur système, parce qu'à partir du moment où t'as pas beaucoup de neufs, jouer à deux devant, il faut trouver deux attaquants qui peuvent jouer axial. Donc ça me paraît compliqué aujourd'hui.
Il y a beaucoup d'équipes qui jouent sans neuf et qui arrivent à gagner des matchs.
Oui, mais là par exemple,
tu disais De Rossi tout à l'heure qui est meilleur buteur, qui est milieu de terrain. Pourquoi on peut pas jouer? Enfin, je sais pas. Hein,
non, mais par exemple, là il manquait quand même
de trouver des solutions pour
non,
équipes,
mais tu as raison, c'est des questions qu'on peut se poser. Mais là, par exemple, sur le rassemblement, il manquait Immobile, même si c'est pas un super attaquant, il y a pas de problème. Il manquait Raspadori qui est aussi blessé, donc Chiesa qui a été aussi blessé. Donc finalement, il te manquait aussi quand même pas mal de joueurs offensifs. Et juste Flora, pour revenir sur ce que tu disais sur les trois clubs italiens en quart de finale de Ligue des Champions. Je vais prendre un simple exemple, mais c'est valable quasiment pour les trois. Le Napoli, qui est l'équipe qui impressionne le plus, qui va être sacrée championne en Italie et qui impressionne le plus même en Ligue des Champions. Vous prenez la ligne d'attaque sur les joueurs majeurs. Vous avez donc Osimhen, nigérian, Kvaratskhelia, géorgien, Lozano, mexicain, Elmas, macédonien. Il y a Raspadori qui est italien mais qui n'était pas là lors du rassemblement parce que blessé, et Politano qui est lui aussi italien et qui est en concurrence avec Lozano. Donc il n'y a pas finalement tant de choix que ça. Quand vous regardez le Milan, c'est Giroud français, c'est Leao portugais, c'est Origi belge, c'est De Ketelaere belge. Donc voilà, on peut le faire dans tout à peu près toutes les équipes. Ce que reproche Mochini, c'est pas trop
ce qu'on voulait te faire dire finalement.
Ouais, voilà, c'est pas tant le niveau des équipes italiennes, c'est que bah en fait les jeunes joueurs italiens, ils jouent pas quoi.
Ouais, effectivement, c'est vraiment à creuser.
Alors ça veut dire que la fédération devrait se pencher sur le fait qu'on revienne à 3, 4, éventuellement 5 étrangers par équipe. Pour redynamiser, si tu veux, les équipes nationales.
Pour relancer un petit peu foot italien. C'est vrai, c'est un vaste sujet, tout ça. Merci beaucoup, Johan Crochet, d'avoir été avec nous. L'Italie qui joue ce soir face à Malte. En revanche, on doit être beaucoup moins inquiet en Angleterre. Les Anglais qui reçoivent l'Ukraine à 18h. Finaliste malheureux du dernier Euro. Quart de finaliste de la dernière Coupe du Monde au Qatar. Vainqueur de l'Italie, donc, pour le premier match des éliminatoires à l'Euro 2024. On va accueillir un homme qui a le sourire. Notre drôle de dame anglaise à nous, Julien Laurent. Salut, Julien.
Salut Flora, salut Manu, salut à tous.
Il a le sourire, évidemment. Comment on a vécu en Angleterre cette belle victoire face à l'Italie, qui lance en plus parfaitement les Anglais dans cette qualification pour le prochain Euro?
Forcément très bien, bien sûr. C'est la première victoire en Italie depuis 1961 déjà, et c'est une victoire marquée bien sûr du record historique d'Harry Kane. Vous en avez parlé un tout petit peu tout à l'heure avec Johan en parlait, qui a donc battu Wayne Rooney avec 54 buts en sélection, en 81 sélections pour l'équipe d'Angleterre. Donc il se place devant Rooney, devant Lineker, devant Charlton, devant Griff, devant tous ces grands buteurs anglais des années précédentes, des époques précédentes, des générations précédentes. Donc forcément, même si tout n'a pas été parfait, et loin de là, parce que notamment en seconde période, il y a quand même pas mal de choses qu'il va falloir rectifier pour Southgate et pour les Anglais. C'est vrai que commencer de cette façon-là, en Italie en plus, avec ce qu'ils ont montré en première période, c'est vrai que c'était très intéressant.
Ouais, c'était aussi en plus la revanche. Manu, est-ce que ça compte quand on est joueur de foot? Parce que c'est la revanche du dernier Euro qui avait été remportée par les Italiens. C'est important aussi dans ces moments-là pour les joueurs de montrer que les forces se sont peut-être inversées.
Mais bien sûr que c'est très important de montrer qu'on peut être supérieur à une équipe forte de l'Union européenne comme l'Italie, même si l'Italie a pas mal de problèmes comme on l'a évoqué avec Johan. Mais l'Angleterre reste sur cette dynamique d'après Coupe du Monde. Souvenez-vous, la France a éliminé l'Angleterre, mais on a eu quand même des grosses difficultés à contenir cette équipe anglaise. Donc il y a des très bons joueurs, il y a une façon de jouer qui est bonne, il y a du collectif, il y a beaucoup d'occasions, il y a Kane qui marque énormément de buts, donc oui, c'est une équipe qui va faire mal dans ces qualifications et éventuellement pendant l'Euro.
Oui, parce que tiens, je vais reprendre une phrase d'Harry Maguire, le défenseur anglais, qui a dit « si nous ne gagnons pas l'Euro, ce sera un échec ». Il n'a pas tort en même temps, Julien, parce que c'est vrai que c'est, malgré des générations à chaque fois dorées ces dernières décennies, il n'y a jamais eu de titre pour les Anglais, donc c'est vraiment ce qui manque aujourd'hui.
Ouais, c'est vrai, et puis je pense qu'il a raison. Alors personnellement, j'espère que pour que l'Angleterre aille loin, Harry Maguire sera pas dans le 11 de départ, mais après il a raison, bien sûr, parce qu'à un moment tu viens de faire demi-finale, finale, quart de finale de la dernière Coupe du Monde contre l'équipe de France, où effectivement ça s'est joué peut-être à pas grand chose. Il y a le penalty de Kane bien sûr à 2-1 pour nous, voilà tout ça. Donc bien sûr qu'ils étaient pas loin encore une fois, mais ça doit être l'avènement de cette génération là du Sylvain Ripoll anglais, qui pour moi est encore la faiblesse principale de cette équipe. C'est son sélectionneur, c'est son entraîneur. On l'a encore vu en Italie, où en seconde période certes tu finis le match à 10, mais il y a aucun tir, même pas de tir cadré. En seconde période, il se passe absolument rien. Ils ont perdu le contrôle du match, ils ont perdu le contrôle du ballon, ils ont perdu tout, en fait. Au final, ils gagnent, donc c'est très bien, ils sont contents, Kane a son record, c'est très bien. Mais cette seconde période-là, par moment, elle a été un petit peu inquiétante quand même. Donc, il y a encore beaucoup de travail à faire pour eux, mais c'est vrai que, avec l'expérience qu'ils ont emmagasinée, c'est très très bon résultat, en tout cas pour une équipe anglaise, quand on pense à l'élimination en 2016 à l'Euro en France, par l'Islande, par exemple, en huitième de finale. Ce genre de choses-là, là, c'est vrai que on a passé le cap au-delà de ces déceptions. Des tournois précédents. Et là, on compte maintenant l'Angleterre dans les grands favoris à chaque compétition, que ce soit Coupe du Monde ou Euro. Donc, c'est vrai que cet Euro en Allemagne, ça doit être, c'est, pour moi, c'est les grands, c'est les favoris, peut-être au même niveau que d'autres, comme nos Bleus à nous.
Mais France,
c'est vrai
hein.
qu'ils bah oui. doivent, oui, voilà, c'est ça. Mais ils doivent aller la gagner ou en être très proche.
Bah oui, Manu, parce que quand on regarde l'équipe sur le papier anglaise, ça fait peur quand même. Il y a beaucoup de grands joueurs qui jouent dans les plus grands clubs européens. Il y a un vrai vivier. Il y a des jeunes aussi qui poussent derrière,
c'est
qui
ça,
arrivent.
C'est ça.
Donc il y a vraiment de quoi faire. Et c'est vrai que Gareth Southgate, on se demande si vraiment c'est l'homme de la situation pour arriver à faire que tout ça fonctionne correctement.
Tu sais, quand on regarde même l'équipe de France, parce que l'équipe de France contre les Pays-Bas, c'est 45 possessions de balles. Mais quand on prend, alors on dit toujours ouais, mais ils ont gagné, c'était pas très bien. On critique tout le temps l'équipe d'Angleterre, Julien le disait, a pas très bien joué cette deuxième mi-temps. Mais le résultat c'est qui prime par rapport à la qualité du match qu'on a fait. Aujourd'hui, on met plus en valeur le résultat et on essaye de trouver des choses à dire sur la qualité de jeu des équipes nationales. Mais c'est vrai qu'il a l'entraîneur Southgate un effectif qui est quand même très intéressant. Moi j'ai vu Bellingham qui a été très bon dans ce match-là, surtout en première mi-temps. Il a quand même Saka qui a été bon. Il a des jeunes joueurs qui redynamisent cette équipe anglaise et qui montrent leur qualité. Donc bien sûr qu'il va falloir s'en méfier et qui, pour moi, va être un des favoris pour l'Euro.
On parlait d'Harry Kane, Julien Laurence, qui a donc dépassé Wayne Rooney en étant le meilleur buteur désormais de la sélection anglaise. Je veux quand même rappeler une chose, il n'a que 29 ans, Harry Kane, mine de rien. C'est vrai qu'à chaque fois, moi, ça m'interpelle quand je vois son âge, parce qu'on le voit tellement depuis des années.
Tu lui en donnes un peu plus quand tu le vois, non?
Oui, aussi. Voilà, je ne l'aurais pas dit comme ça, mais effectivement, il fait un petit peu plus. Mais c'est vrai que Julien, il y a un avenir qui s'ouvre à lui. Alors, c'est toujours la question de savoir s'il faut quitter Tottenham ou pas pour passer un step différent pour lui. Mais c'est vrai que l'avenir, quand même, pour Harry Kane est absolument incroyable.
C'est vrai. Alors, il aura 30 ans au mois de juin, donc on est plus près des 30 ans, effectivement, que des maintenant, mais tu as raison. Non, mais c'est vrai,
les
mais
mois
tu as raison.
Sont importants à cet âge-là, Julien.
La question, non, c'est vrai, tu as raison. Mais la question qu'on se pose ici en Angleterre, c'est effectivement combien de buts il va rajouter encore au record. Ce qui est marrant, et le petit clin d'œil du destin, c'est que quand Wayne Rooney bat le record, donc, précédent de Sir Bobby Charlton, il y a 8 ans de ça maintenant, et il marque sur penalty, comme Harry Kane a marqué sur penalty contre l'Italien pour battre le record de Rooney. Et sur le terrain, le premier joueur à venir enlacer Wayne Rooney et célébrer le record et le but avec lui, c'est Harry Kane. Harry Kane à l'époque, donc il y a 8 ans,
forcément, il était encore jeune.
C'était sa quatrième sélection. Et Rooney dit aujourd'hui, dans sa chronique du Times hier, il dit, même ce jour-là même, le jour de mon record, je savais qu'Harry, à un moment, battrait mon record à moi. Parce que déjà, c'était sa quatrième sélection, il avait déjà marqué 3 buts pour l'Angleterre, il avait fait une première saison fantastique avec Tottenham, et tu disais bien que s'il n'y avait pas de blessure ou pas d'accident, pas de problème, ce serait un très très grand buteur, ce qu'il est devenu d'ailleurs. Donc, combien il en rajoutera, 20, 25, 30, je sais pas jusqu'où il pourra porter ce record, mais c'est vrai que pour l'instant, même si le meilleur ratio, je crois, c'est Jimmy Greaves, donc là, on parle des années 50-60, je crois qu'il a marqué 44 buts en 51 sélections, enfin, un record assez incroyable en termes de buts marqués par match joué. Kane est vraiment en ce moment et l'autre débat ici, Flora, je sais pas ce que t'en penses toi en grande fan du football anglais, mais c'est est-ce que Kane est le plus grand buteur de l'histoire de l'Angleterre? Est-ce que c'est le plus grand joueur, le plus grand buteur en tout cas? Est-ce qu'il est encore meilleur que Rooney, que Charlton, que Greaves, etc., que Lineker? Voilà, c'est le débat qui fait beaucoup parler ici en Angleterre. Qui est votre meilleur buteur anglais?
Ah, c'est difficile, Manu, à donner ce genre difficile de réponse ça. Moi, j'ai une affection pour Wayne Rooney, donc c'est dur pour moi. Mais oui, c'est sûr que c'est. On peut se poser la question. Et c'est vrai que Julien aussi, quand on voit Harry Kane, on va quand même rappeler aussi que Marcus Rashford, qui marche sur l'eau avec Manchester United, était préservé pour ce rassemblement. Il n'était pas là. L'attaque anglaise, quand même, sur le papier, c'est très, très impressionnant.
Ouais, il faut faire juste les bons choix. Effectivement, est-ce que tu mets Rashford à gauche avec Kane et Saka? Est-ce que tu fais jouer Foden? Est-ce que tu fais jouer Grealish? Est-ce que tu fais jouer un James Maddison, par exemple?
C'est des problèmes de riches, hein, là, quand même. Hein.
Effectivement, c'est des problèmes de riches. Mais le problème aussi que tu as, c'est que si tu te trompes, bien sûr, tu peux rectifier en cours de match, tu peux faire des changements, etc. Mais si tu te trompes, ça peut aussi avoir un impact quand tu es le sélectionneur d'une équipe avec autant de talent. C'est facile, finalement, quand tu as 3 joueurs qui sortent du lot, c'est les 3 titulaires, c'est comme ça. Là, c'est vrai qu'il faut pas se tromper, notamment face à des défenses différentes, des équipes différentes, tout ça. Mais vraiment, et juste pour finir sur Rashford rapidement, petite polémique. J'ai pas trop compris. Il est parti en vacances, donc il est blessé. Enfin, il était légèrement blessé. Il est parti en vacances à New York. T'as dû voir ça avec sa fiancée. Ouais. Ça a beaucoup fait parler les Anglais, qui disaient que peut-être il aurait dû rester à Manchester pour justement se soigner, récupérer. Voilà, ça.
Ils ont pas le droit de se changer les idées, en fait.
J'ai l'impression, c'est un peu ça. Oui, c'est très bizarre.
Bah, quand t'es blessé, tu dois te soigner, non? C'est logique.
Est-ce que c'était vraiment une blessure ou est-ce que c'était plus besoin de récupérer aussi un petit peu? Il a beaucoup joué, Marcus Rashford.
C'était assez léger comme blessure. D'ailleurs, on avait, au moment de son forfait, on avait beaucoup parlé du fait que Sir Alex avait dit à Ten Hag et à Rashford, allez, faites comme je faisais à l'ancienne. Tu leur dis qu'ils sont blessés, qu'ils vont pas au rassemblement. Mais voilà, petite polémique. Mais c'est vrai que si Rashford a le même niveau avec l'équipe d'Angleterre qu'il a cette saison avec Manchester United, c'est vrai que ça peut faire encore plus mal.
Ouais, parce qu'il joue aussi sur le côté avec Manchester United. Merci beaucoup, Julien Laurence.
Merci.
On se retrouve tout à l'heure. Tu vas nous parler aussi un petit peu de l'Irlande, le futur adversaire des Bleus.
Tout à fait.
Demain soir. Manu, tu restes avec moi, évidemment. Il est 13h45 dans l'Intégral Sport sur RMC. On va parler cyclisme dans quelques instants avec l'une des classiques flandriennes qui se déroule en ce moment à Gand-Wevelgem. A tout de suite sur RMC.
RMC Intégral Sport.
Flora Moussi. 13h48 sur RMC. Merci d'être avec nous dans l'Intégral Sport. On vous accompagne avec Manu Amoros jusqu'à 15h avant de laisser la main à Christophe Cessieux pour le reste de l'après-midi. On va parler cyclisme un petit peu parce que c'est l'une des classiques de la saison. Une classique flandrienne. Gand-Wevelgem. Je vais laisser le soin à Arnaud Souk de prononcer ça correctement. Salut Arnaud.
Salut Flora, salut à toutes et à tous. Non, Wevelgem tout simplement.
Wevelgem, voilà. Je vais m'appliquer. Présente-moi un petit peu, tiens, cette classique belge, parce que c'est pas la seule classique flandrienne. Il y en a beaucoup en cette période.
Oui, alors il y en a beaucoup effectivement, et il y en a particulièrement beaucoup en ce début de printemps. Voilà, on a une série de 5 classiques flandriennes. On appelle ça la semaine sainte ici du cyclisme flandrien en Belgique. Ça a commencé par Bruges, La Panne. C'était en début de semaine. On a eu également le Grand Prix E3 à Relbeek avec la victoire de Wout van Aert, ça c'était vendredi. Et puis aujourd'hui, donc troisième des 5 levées de cette semaine sainte, c'est donc Gand-Wevelgem. On aura à travers la Flandre mercredi, puis le Tour des Flandres, ça c'est l'apothéose, c'est la classique monumentale qui se déroulera dimanche prochain. En attendant, donc Gand-Wevelgem, qui est quand même une classique très réputée, hein, 85e édition de cette classique qui passe dans les champs de bataille de la Première Guerre mondiale. C'est une classique que les organisateurs ont aussi voulu charger d'histoire. On passe notamment par des ossuaires, hein, de soldats de la Première Guerre mondiale morts au combat, donc voilà, notamment au Kemmelberg tout à l'heure, qui est l'un des 7 monts franchis aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses à dire, et notamment à dire, c'est plutôt la classique des sprinteurs, a priori, Flora, cette classique Gand-Wevelgem.
On verra ce que ça va donner parce qu'on a évidemment des chances françaises. On va en parler dans quelques instants, mais en perspective, évidemment, pour tous les coureurs, Arnaud, c'est le Tour des Flandres le week-end prochain.
Absolument, oui, le Tour des Flandres qui sera l'apothéose, hein, je te le disais Flora, de cette semaine sainte flandrienne. C'est une classique absolument monumentale que tout le monde veut gagner. C'est l'un des 5 monuments d'ailleurs de la saison, hein. Après Milan-San Remo, on a le Tour des Flandres. Il y aura ensuite Paris-Roubaix, puis Liège-Bastogne-Liège et le Tour de Lombardie. C'est l'une des 5 classiques à gagner, hein. Beaucoup de coureurs disent qu'ils préfèrent gagner le Tour des Flandres que par exemple gagner ne serait-ce qu'une étape sur le Tour de France. Donc ça donne un petit peu l'importance de cette course. Ce qui fait la force aussi de cette course, de ce Tour des Flandres, c'est le public qui est au bord de la route. La Belgique revendique 1 million de spectateurs tout au long des 270-275 kilomètres de course. Alors il y a une édition d'ailleurs il y a quelques années, au moment du Covid en 2020, où il n'y avait pas eu de public, et Oliver Naissen, qui cette année-là avait brillé, le cycliste belge, s'en souvient bien. Il n'avait pas vraiment apprécié le fait qu'il n'y ait pas de public. On peut l'écouter, Oliver Naissen.
De moins en moins sprinteur, j'ai
alors non, ça
plus,
c'est Julien Jourdi.
La densité de ces courses-là font que.
Alors c'est pas
Oliver Naissen. Oliver Naissen, est-ce qu'on peut l'écouter?
Je suis pas sûr qu'on l'ait.
Si, on doit l'avoir, ma chère Flora. Voilà, en tout cas, le cycliste belge de l'équipe AG2R Citroën, qui avait terminé 7e cette année-là du Tour des Flandres, et donc on l'écoute. Il avait terminé 7e dans une ambiance de mort, et ça l'avait pas forcément plus.
C'est dans l'ADN des Flamands. C'est un peu le même que. Avec le Tour de France, les Français, chez nous, le Tour de Flandre, c'est une journée sacrée. C'est comme Noël, c'est comme Pâques, c'est comme tous les grands jours de l'année. Et ça parle à la boulangerie, aux boucheries, ça parle partout qui va gagner. Est-ce que Van Aert peut gagner? Est-ce que Fluyt peut gagner? Est-ce qu'un Belge peut gagner? C'est hot en Belgique, oui.
Ouais. Alors voilà, là pour la précision, c'était Hugo Courvitz qui lui, pour le coup, est un journaliste belge. Il a couvert plus de 30 saisons de cyclisme depuis les années 80 pour le quotidien belge Het Nieuwsblad. Lui, il habite au pied du vieux Coirmont, qui est l'un des endroits emblématiques du Tour des Flandres. Et voilà, il nous racontait un petit peu à quel point ce Tour des Flandres, justement, c'était un moment hyper symbolique, hyper important. Voilà, c'est comme Noël, c'est comme Pâques, c'est un jour vraiment sacré en Belgique.
On a compris, ouais, tout l'engouement qu'il y a autour de cette course-là. Alors en tout cas, aujourd'hui, hein, sur Gandevelgem, il n'y aura pas Julien Alaphilippe. Explique-nous ce qui se passe pour le Français.
Alors non, il n'y aura pas Julien Alaphilippe. Mais peut-être qu'on va pouvoir justement écouter Julien Jourdi, parce qu'il va pouvoir nous préciser, le directeur sportif de l'équipe AG2R Citroën, si on l'a bien et si on est en mesure de l'écouter, pourquoi on n'a pas forcément tous les protagonistes qu'on a vus au Grand Prix E3 vendredi, qui est la répétition du Tour des Flandres, qui est une classique avec beaucoup de monts, avec beaucoup de côtes, avec voilà des difficultés qui a priori plaisent aux punchers. Aujourd'hui, on n'a pas Julien Alaphilippe, on va y revenir dans un instant, mais on n'a pas également non plus ni Tadej Pogacar, ni Mathieu Van Der Poel. Ce sont ici les sprinteurs. A priori, c'est quand même une classique un petit peu plus réservée aux sprinteurs. Julien Jourdi, on peut l'écouter.
De moins en moins sprinteurs, une fois de plus, la densité de ces courses-là font que tu as des vrais spécialistes de classique qui font tout justement pour pas que ça arrive au sprint. Et je pense qu'on reverra plus un sprint massif à Gandevelgem comme dans le passé où il y avait 120, 150 mecs au sprint. Ça, pour moi, c'est, on le reverra plus. On peut encore assister à un sprint de 30, 40, 50 coureurs dimanche. Ça sera peut-être le cas. Pour se faire une place dans les 10 premiers, il faut pour moi être très fort individuellement et collectivement, quoi.
Voilà, Julien Jourdi, pour revenir sur ta question initiale, Flora, pourquoi il n'y a pas Julien Alaphilippe? Rien à voir avec ses soucis du moment, c'est que comme c'est une classique pour sprinter, qu'il est de moins en moins, nous dit Julien Jourdi, mais qui reste quand même pour des profils de sprinter, Julien Alaphilippe, il n'a rien à faire ici. Gandevelgem, c'est pas du tout son combat. Son combat, c'est le Tour des Flandres la semaine prochaine. Maintenant, tu me demandes des nouvelles de Julien Alaphilippe. Je vais t'en donner. Effectivement, on l'a vu un petit peu à la peine dans le final de Milan-San Remo la semaine dernière. On s'attendait à ce qu'il soit un petit peu acteur du Grand Prix E3 à Arelbeek, je te l'ai dit, répétition générale du Tour des Flandres qui s'est déroulé vendredi ici en Belgique. Ça n'a pas été le cas, il a été obligé d'abandonner, il s'est élevé un petit peu fiévreux avec des maux d'estomac, ça commence un petit peu à ronfler, alors pas qu'auprès de Julien Alaphilippe, mais de manière générale d'ailleurs dans cette équipe Soudal Quickstep. Mais c'est vrai que Julien Alaphilippe a été un petit peu victime du courroux du manager général belge, le sorcier belge Patrick Lefebvre, qui est habitué à gagner plein de courses avec ses hommes qui n'ont gagne pas beaucoup. Et c'est vrai que ça fait plusieurs fois que Patrick Lefebvre dit un petit peu pas forcément tout le bien qu'on attendrait de lui pour ses hommes, et notamment pour Julien Alaphilippe. Et encore une fois, voilà, sans vraiment le nommer, il a mis la pression sur l'équipe Soudal Quickstep, mais on a bien compris que Julien Alaphilippe faisait partie de ceux qui avaient le plus la pression. Il va falloir dimanche prochain sur le Tour des Flandres qu'il soit performant, Julien Alaphilippe.
13h55 dans l'intégrale sport sur RMC avec Arnaud Souk. On fait le point sur Gandevelgem, l'une des classiques flandriennes de la saison. Manu Amoros, on parlait de Julien Alaphilippe qui a vécu une saison en 2022 un petit peu compliquée. À quel point c'est difficile quand on est sportif comme ça, qu'on a vécu une période compliquée, de revenir et d'arriver à reprendre confiance pour retrouver son meilleur niveau?
Ouais, c'est compliqué parce que peut-être les enchaînements qu'il a eu, la répétition des courses, et puis est-ce que sa vie d'à côté a été dans la continuité de ce qu'il avait fait auparavant, et puis il y a une lassitude aussi qui doit peut-être se créer quand on est en haut, au sommet, comme on disait tout à l'heure, par les journalistes, par la presse, d'être toujours en avant. Comment ?
On est attendu.
Oui. Donc voilà, est-ce que cette pression était trop forte pour lui et qu'aujourd'hui, malheureusement, il a du mal à revenir. Mais bon, je pense que c'est quelqu'un de combattant qui va mettre tout ça de côté. Il va continuer à travailler et essayer de revenir le plus vite possible pour refaire des très bonnes performances dans les courses cyclistes.
On en parlera tout à l'heure, Arnaud. On va retrouver évidemment d'autres Français et puis on parlera des favoris aussi tout à l'heure. Mais juste fais-nous d'abord un petit point sur la course, là où on en est. Il pleut sur les routes là.
Ah ça, il pleut, ça je te confirme, que c'est un dimanche pluvieux sur Gandevelgem. C'est pas un dimanche rigolo, on a sorti les caouets du côté des coureurs. On a la mi-course, on a atteint la mi-course à peu près au bout de 2 heures de course, même un petit peu plus, 3 heures désormais. 133 km parcourus, 126 encore à parcourir, une chute à l'instant sous nos yeux, a priori une chute sans gravité, enfin je dis a priori, sauf pour un coureur de l'équipe Ineos qui semble rester au sol. Les autres vont se relever de la situation de course nous avons 14 hommes en tête, dont le néerlandais Mike Tennissen, ancien vainqueur d'étape sur le Tour de France, Greg Van Avermaet, ancien maillot jaune sur le Tour de France et champion olympique en 2016, le Belge, et nous avons également un Français dans cette échappée, c'est Sandy Dujardin, 2 minutes 25 d'avance, et c'est Mihai Kwiatkowski qui est au sol côté Ineos, et ça c'est pas une bonne nouvelle pour la formation britannique, parce que le Polonais faisait potentiellement figure aujourd'hui d'homme à surveiller sur cette classique Gent-Wevelgem, et j'ai l'impression qu'il aura beaucoup de mal à se relever, Mihai Kwiatkowski. Donc je te le disais, 14 hommes en tête, 2 minutes 29 d'avance sur le peloton mené par les Jumbo Visma de Wout Van Aert, qui aura sa carte à jouer forcément aujourd'hui.
Merci beaucoup Arnaud, on te retrouve évidemment tout au long de l'après-midi jusqu'à l'arrivée sur les coups de 16h40 à peu près, pour savoir qui va s'imposer sur cette classique flandrienne. 13h57 dans l'intégral sport sur RMC avec Manu Amoros, on revient dans quelques minutes pour vous parler de l'équipe de France qui joue demain soir à Dublin son deuxième match dans les qualifications à l'Euro 2024 face à l'Irlande. À tout de suite sur RMC.
RMC Intégral Sport,
Flora Messi. 14h03 sur RMC. Merci d'être avec nous, avec Manu Amoros. Toujours là, Manu, tout va bien?
Ouais, tout va bien, merci. Et toi?
Bah, ça va très bien, on se régale. Ah, on va parler de l'équipe de France dans quelques instants avec toi, Manu, parce qu'on est à la veille du deuxième match des Bleus dans les éliminatoires à l'Euro 2024. C'est face à l'Irlande à Dublin. Conférence de presse ce soir à 18h à retrouver sur RMC. Entraînement dans la foulée. On vous donnera évidemment les toutes dernières infos grâce à nos reporters à Dublin et notamment Fabrice Hawkins. Salut Fabrice.
Salut Flora, salut Manu.
Bien arrivé à Dublin, il y a eu des petits soucis avec les vols, hein, je crois. Tout va bien?
Ouais, tout va bien. On vient d'arriver, tout comme les Bleus d'ailleurs, qui sont arrivés il y a quelques minutes, partis un petit peu avant midi. Tout le monde est là et on va à l'hôtel, si vous voulez tout savoir.
Parfait. Tiens, puisque tu es là, on va te demander tout de suite des petites infos qu'on a envie de savoir, parce qu'on a entendu Didier Deschamps ce matin nous dire que l'équipe alignée face à l'Irlande serait proche de celle qui a débuté face aux Néerlandais. Quelle est la tendance maintenant? Est-ce qu'on se dirige effectivement vers le même 11 de départ?
Oui, effectivement, le 11 va pas énormément changer. On aura évidemment plus de précision avec les ajustements qui seront faits sur la mise en place de veille de match. Ce sera tout à l'heure aux alentours de 19h30, hein, entraînement à la Viva heure française. Le premier quart d'heure sera ouvert à la presse. Ensuite, c'est comme d'habitude, ce sera à huis clos. Donc, il y aura une mise en place qui sera effectuée. Et suite à ça, on en saura un petit peu plus. En tout cas, il ne devrait pas y avoir énormément de modifications. On va partir sans doute avec la même ossature. Et quelques petits points d'interrogation, notamment à droite. Est-ce que Benjamin Pavard va avoir sa chance une nouvelle fois? On sait qu'il avait été mis un petit peu de côté lors du mondial. C'était pas très bien passé entre lui et Didier Deschamps. Interrogation également au niveau de celui qui va animer l'attaque des Bleus. Est-ce que ce sera Randal Kolo Muani? Est-ce que ce sera Olivier Giroud? Et puis peut-être aussi un petit changement sur le côté droit. On sait que Kingsley Coman n'était pas dans son meilleur jour, notamment sur sa première période. Ça a été mieux en deuxième mi-temps. Est-ce que là aussi Didier Deschamps va vouloir faire tourner, ou est-ce qu'il va de nouveau faire confiance à Kingsley Coman? Voilà les petites interrogations, mais on va repartir vraisemblablement sur un 11 qui va se rapprocher de celui qui a joué contre les Pays-Bas.
Ouais, on a entendu toutes ces interrogations, Manu, notamment tiens, sur le côté droit de la défense, toi, un poste que tu connais très bien. Est-ce que Jules Koundé, toi, ça te satisfait, ou alors est-ce que tu penses qu'il y a une meilleure solution? On évoque Benjamin Pavard ou autre. Qu'est-ce que tu en penses, toi?
Non, je crois que Koundé a fait son match. C'est une alternative parce que c'est pas un latéral de formation, mais il le fait très bien. La seule interrogation, c'est Coman. Est-ce qu'il a pris un mauvais coup? Est-ce qu'il est rétabli ou pas? Mais je crois que Didier Deschamps va pas changer une équipe qui gagne pour mettre d'autres joueurs qui vont peut-être pas avoir le même rythme de deux matchs, parce qu'il faut avoir quand même le même rythme et puis avoir de la cohésion dans son groupe. Donc moi je pense qu'il va rester comme dans le premier match avec les mêmes 11 joueurs.
Ouais, c'est vrai qu'il a parlé de continuité, cette volonté de continuité de la part de Didier Deschamps. La question de l'attaquant, comme l'a évoqué Fabrice, va quand même se poser, parce que Randal Kolo Muani offre satisfaction, mais quid d'Olivier Giroud dans tout ça? Est-ce que face à une équipe comme l'Irlande, il peut pas être plus intéressant que Randal Kolo Muani?
Ah ben ça dépend ce que Didier Deschamps va rechercher. Est-ce qu'il va rechercher un homme plus fixe et être dans l'axe avec deux centraux et pouvoir la possibilité d'avoir un peu plus de centre par rapport à Kolo Muani, qui est plutôt un joueur qui aime bien prendre les espaces et rester un peu moins dans l'axe? Après, on sait que l'Irlande, c'est plutôt des joueurs assez agressifs, assez volontaires, des joueurs qui n'ont pas peur de vous rentrer dedans. Donc, mais je pense que Colomwani a quand même les moyens de pouvoir supporter cette agressivité, dans le bon sens du terme, des défenseurs irlandais. Mais non, moi, je pense que ça changera pas. Ça changera pas.
Ouais. Quelle est la tendance du côté Didier Deschamps, Fabrice? On sait que Olivier Giroud a aussi l'affection du sélectionneur, mais Randal Colomwani, c'est un petit peu la nouvelle tendance quand même en équipe de France. Tout le monde parle de lui, tout le monde l'apprécie. C'est un petit peu le nouveau chouchou des Bleus aussi.
Oui, c'est un petit peu le nouveau chouchou des Bleus, Randal Colomwani. On parle même de Colomwani en Bundesliga, évidemment en référence à son nom. Randal Colomwani est très apprécié du groupe. Il est proche notamment de Kylian Mbappé. On sait que les deux garçons sont de Bondy. Il est proche également, généralement, hein, de l'ensemble de ces joueurs-là, pour qui beaucoup ont des racines en Île-de-France ou à Paris comme lui. Randal Colomwani, aujourd'hui, ça peut vraiment, enfin demain, ça peut vraiment être un vrai test pour lui, à deux égards. D'abord parce que il y a ce fameux défi physique dont parlait Manu, qui sera proposé par l'Irlande. Donc on va voir justement comment est-ce qu'il se débrouille. On sait qu'il peut le faire. Il a déjà fait à Francfort, notamment en Ligue des Champions, ce qui n'est pas rien. Et puis pour lui, il y a aussi ce petit challenge d'aller marquer ce but, ce petit but qui lui manque, qui lui a manqué notamment contre les Pays-Bas, même s'il a fait une performance saluée et absolument formidable. Mais c'est vrai que marquer un petit but, ça ajouterait encore à sa candidature de titulaire indiscutable des Bleus. Et puis derrière, il y a Olivier Giroud, tu l'as dit Flora, qui est très apprécié de tout le monde, hein, même du public plus globalement. On a entendu la clameur quand il est rentré, l'ovation au Stade de France vendredi dernier, mais aujourd'hui c'est vraiment Randal Colomwani qui tient la corde. On va voir tout à l'heure ce qui va se passer lors de la mise en place.
On est avec Fabrice Hawkins et Manu Amoros pour parler de cette équipe de France dans l'Intégral Sport. Romain est avec nous également au 32-16. Salut Romain.
Bonjour Flora, bonjour Manu, bonjour Fabrice.
Oh, je sens un petit accent du Sud.
Exactement.
Supporter de l'OM, effectivement. Tiens, ton avis sur le numéro 9 des Bleus. Est-ce que tu es plus équipe Randal Colomwani ou plus Olivier Giroud? Qu'est-ce que tu en penses?
Ben, je pense, Flora, que ça dépend aussi beaucoup du profil de l'adversaire qu'on va affronter. Comme on le sait maintenant, hein, quand on connaît un peu le foot, j'ai pas la prétention de dire que je le connais, mais quand on connaît un peu le foot, on sait qu'un attaquant, bien évidemment, il est là pour marquer des buts, mais le travail qu'effectue Olivier Giroud face à certaines équipes, le pressing, l'intensité qu'il peut mettre, c'est quand même une preuve d'un professionnalisme et d'un typique. Je pense que beaucoup de monde nous en dit. L'avantage aussi avec Randal Colomwani, c'est qu'il est largement capable de prendre les espaces, de créer justement des espaces pour ses coéquipiers. Mais je pense que face à un bloc bas, comme peut l'être l'Irlande, c'est très bien d'avoir un pivot et d'avoir quelqu'un en appui comme Giroud. Et puis, je pense aussi inconsciemment, ce qu'on a tendance à oublier, Olivier Giroud, il est champion du monde, il a gagné des champions, il a gagné l'Europa League, il est champion de France, il est champion d'Angleterre, il est champion d'Italie. C'est quand même une expérience à ne pas négliger. Et c'est l'avantage qu'on a aussi en équipe de France, c'est qu'on a ces différents profils et que le groupe a l'air de bien vivre. Si on doit parler de l'Irlande, je pense très honnêtement qu'Olivier Giroud, pour moi, tient la corde, dû à son expérience et dû aussi au fait qu'on va être face à une équipe qui est un bloc bas. Et quand c'est un bloc bas, c'est beaucoup plus difficile pour quelqu'un comme Randal Colomwani, pour l'instant, hein, d'arriver à se mettre à la hauteur et au niveau, même si je pense qu'il en est capable.
Oui, mais Romain, aujourd'hui, on les a vus contre les Pays-Bas, l'équipe de France, à la perte du ballon, recule, donc se met en position de contre-attaquant. Donc, que ce soit... Et en plus, Didier Deschamps, je ne sais pas s'il va se mettre en se disant, tiens, je vais mettre Olivier Giroud parce que je vais m'adapter à la situation de l'équipe adverse.
Bah, il aura la solution pour eux,
Il a dans sa tête une équipe qui a très bien fonctionné, même si on peut encore en parler sur le jeu, mais qui a très bien fonctionné, qui a marqué des buts et qui peut être aussi performante en Irlande.
Ah, je pense tout à fait, Manu. Je pense que sur ça, tu as raison. En plus, notre jeu, on va dire, là où on est très performant, c'est sur les phases de transition. On l'a vu, bon, l'action la plus notable, c'est le débordement de Kingsley Coman en fin de partie, justement, sur le raté de Colomwani. Le seul défaut, si je peux me permettre, que je trouve à notre sélectionneur, qui est quand même très performant, il a du mal à changer de système en cours de match. Donc, s'il fait le choix de Colomwani, je pense qu'il n'arrivera pas en cours de match à dire à Giroud, tu rentres pour être un point d'appui, un point de pivot. Donc, je pense que ça sera un choix qu'il fera avant le match. Vous avez raison, l'ensemble, ça a bien marché contre les Pays-Bas. Je pense aussi, si on doit parler factuellement, qu'il remettra le même 11 que contre les Pays-Bas. Mais honnêtement, contre les Irlandais, d'avoir un point d'appui comme Giroud pour donner un peu d'espace, que ce soit Mbappé ou Coman sur le côté, ça peut être aussi intéressant. Mais par contre, je te donne raison sur le fait que l'équipe de France, elle ne s'adapte pas à l'adversaire et elle impose son jeu. Mmh. Et c'est tout à fait ça qu'il faut faire, je pense, pour gagner des compétitions.
Un dernier truc, Manu, avec toi, je voulais évoquer, parce que c'est vrai qu'on parle d'Antoine Griezmann. Ce positionnement choisi par Didier Deschamps aujourd'hui, hein, beaucoup plus bas sur le terrain, je sais que toi, ça te frustre un petit peu.
Un peu, parce qu'on n'a pas de leader technique dans cette équipe-là, et Griezmann peut le faire. Donc, quand on le voit, bien sûr que le premier but, il est extraordinaire. Il vient, il tacle, il récupère le ballon. Débordement sur le côté, Kylian Mbappé remet en retrait pour Griezmann qui vient, qui plat du pied marque. Mais je trouve qu'il devrait être un peu plus haut et pouvoir organiser le jeu de l'équipe de France. Mais le problème, c'est que dans les contre-attaques, on prend les joueurs qui vont le plus vite possible. Griezmann, c'est pas celui qui va le plus vite. C'est Mbappé, c'est Coman, c'est Colomouani qui prennent de l'espace, qui prennent de la profondeur. Donc voilà, ce rôle de Griezmann, moi, me déplaît un petit peu, parce que j'aimerais bien le voir un peu plus haut et être vraiment proche des attaquants pour pouvoir organiser le jeu de l'équipe de France offensivement.
Ouais, Fabrice, est-ce que c'est clair dans la tête de Didier Deschamps? Est-ce qu'Antoine Griezmann est fixé maintenant à ce poste-là un peu plus bas sur le terrain, ou alors est-ce que ça peut encore évoluer et retrouver un rôle plus offensif?
Il y a un mot qui est cher à Didier Deschamps, Flora, c'est l'adaptation. Il nous le répète sans cesse à chaque fois qu'il est amené à modifier des choses. Et je pense qu'aujourd'hui, effectivement, il voit Antoine Griezmann comme un milieu de terrain, mais que demain, si pour une circonstance particulière, il devait repasser un petit peu plus haut sur le terrain, je pense que ça ne le gênerait absolument pas. Après, j'entends les arguments de Manu, mais vraiment, pour moi, la belle trouvaille de Didier Deschamps parmi toutes ces trouvailles d'ailleurs lors du mondial, parce qu'il y a aussi Eduardo Camavinga sur le côté gauche, arrière gauche, on peut en reparler, mais c'est quand même une belle trouvaille Antoine Griezmann dans le cœur du jeu, parce que il sait tout faire, il défend bien, il fait bien le lien entre les milieux de terrain et l'attaque, il arrive à vite se projeter quand même, on l'a vu sur le premier but de l'équipe de France, il peut récupérer des ballons, il a cette complicité également, que ce soit avec Randal Kolo Muani ou que ce soit avec Kylian Mbappé, donc moi je l'aime bien dans ce rôle-là, et encore une fois, lui aussi se plaît. Autant je pourrais pas dire la même chose d'Eduardo Camavinga quand il joue arrière gauche, autant lui prend plaisir à jouer autant au milieu de terrain qu'en attaque, et d'ailleurs il le fait aussi en club.
Mais Fabrice, j'entends bien ce que tu dis, mais le problème, c'est que on l'a vu en première mi-temps où il s'est projeté, en deuxième mi-temps, on l'a moins vu quand même se projeter. C'est que, alors, c'est vrai qu'il aime jouer dans ce poste-là, il a la condition physique pour le faire, mais à la répétition chaque fois de course, de récupération, de repartir vers l'avant, revenir défendre, en deuxième mi-temps, moi j'ai trouvé qu'il s'est épuisé trop. Et on n'avait plus de points d'appui au niveau du milieu de terrain pour pouvoir donner des bons ballons à nos attaquants.
Ouais, après là tu pointes un autre problème, Manu, qui est très intéressant aussi, c'est physiquement. Est-ce qu'il a le bagage aujourd'hui? Est-ce qu'il l'aura en 2024 à l'Euro? Si on est qualifié, normalement ça devrait bien se passer. Ça c'est un autre problème, mais j'ai envie de te dire, et tu le sais aussi bien que moi, qu'il y a le réservoir derrière. Un Christopher Nkunku par exemple dans ce rôle-là peut aussi faire l'affaire.
Bien sûr, oui, je suis d'accord avec toi. Mais il faut pas non plus l'épuiser, quoi. Il faut essayer de le garder. Il a quand même un âge certain, et que plus les efforts tu en fais sur le terrain, tu fais pas bien la récupération, c'est compliqué. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Il a un bagage physique qui est énorme. Et puis, comme tu dis, il aime jouer à ce poste-là. Alors, quelque part, quand on le regarde, il est libre sur le terrain. Il va un peu où il veut. Et c'est ça qui est intéressant, parce que il peut venir couvrir Rabiot, il peut venir couvrir Tchouaméni, il peut se projeter en attaque en récupérant des ballons assez facilement, mais après j'ai peur qu'il laisse trop de plumes dans du côté physique.
Pour vous départager, messieurs, on va demander l'avis à Romain qui est toujours avec nous au 32-16. Est-ce que toi, cette position d'Antoine Griezmann un peu plus bas sur le terrain, elle te convient, ou alors t'es un petit peu frustré toi aussi comme Manu Amoros?
Alors honnêtement, Flora, je pense qu'il faut dissocier, et Manu est bien placé pour le comprendre, Fabrice aussi le comprendra, et toi aussi d'ailleurs, Flora, tout le monde peut le comprendre. Je pense qu'il y a une différence entre les qualifs et les compètes. On le voit avec plusieurs exemples, que ce soit Ronaldo avec le Portugal, Zlatan avec la Suède. Je pense que ces profils-là, âgés, expérimentés pour des qualifs, c'est super important. Quand tu vas jouer des matchs un peu casse-cou dans des pays d'Europe que tu n'as pas l'habitude d'affronter, face à des nations qui ne sont peut-être pas là pour jouer au ballon, pour faire un bloc bas, c'est très important d'avoir ces joueurs-là d'expérience, où je pense que leurs capacités techniques prennent le dessus sur le physique. Manu a raison sur la récupération, sur toutes ces choses-là, mais pour des qualifs, c'est super important d'avoir ces gars-là. Quand on est en compète, quand on est en Euro ou en Coupe du Monde, l'équipe change un peu parce que ben, c'est à élimination directe, c'est la pression d'une compétition, mais là, sur le rôle de Griezmann, je vous dis honnêtement, je suis pas du tout frustré. Regardez le plat du pied qui met. Ça avait l'air simple, sur la remise d'Mbappé, combien l'aurait mis trois lieux au-dessus. Et il a cette manière de se projeter. Je trouve que c'est ça qui est très intéressant avec l'équipe de France. C'est que l'apport d'Mbappé de Coman sur les côtés permet énormément de projection pour Rabiot et pour Griezmann. Et la chance qu'on a par-dessus tout, c'est quand tu sais que derrière, en 6, il y a un bonhomme solide. On a la chance d'avoir eu des Kanté, des Pogba, on a Tchouaméni. On a quand même des gars fiables sur qui on peut compter. Donc je pense que c'est très très important d'avoir ce type de profil comme Griezmann. Je ne suis pas trop frustré du moment que ça sert l'équipe de France.
On est bien loti en équipe de France, effectivement, quand on regarde tous ces noms.
Juste, Flora, je vous coupe deux secondes. Oui. Je voulais juste souhaiter un très bon baptême à mon neveu Télio. Tout le monde m'attend pour manger dedans que je suis au téléphone avec
RMC. Eh bah parfait, on va te libérer pour que tu puisses y aller fêter tout ça.
Un très bon baptême et je vous souhaite à tous une très très bonne journée. J'embrasse mon ami Mousse et mon ami Axel qui écoutent aussi. Je vous embrasse fort et va chercher une victoire pour l'équipe de France.
Merci beaucoup Romain. Merci, belle journée à toi. Merci d'avoir été avec nous sur RMC dans l'Intégral Sport. On va remercier Fabrice Hawkins aussi, rappeler l'échéance Fabrice de la conférence de presse des Bleus tout à l'heure à 18h avec à nouveau Kylian Mbappé, c'est ça?
Oui, à la Viva Stadium, dans l'auditorium, le capitaine des Bleus, le nouveau capitaine des Bleus sera là. C'était l'une des interrogations quand il a été nommé. Est-ce qu'il va se présenter systématiquement en veille de match? La réponse était non, mais force est de constater, on est bien heureux d'ailleurs, que ce sera encore une fois Kylian Mbappé, comme contre les Pays-Bas. On a hâte de le voir tout à l'heure et de lui poser beaucoup de questions. On en aura, évidemment, et notamment sur Antoine Griezmann. Je vais le mettre au frigo pour toi, Manu, Antoine Griezmann.
ouais, vas-y. Fais-lui faire de la cryothérapie. Avant le match, ça y fera du bien.
Conférence de presse qu'on suivra en direct sur RMC, donc à partir de 18h avec Benoît Boutron et toute l'équipe. Entraînement dans la foulée, on vous donnera évidemment toutes les infos. Merci beaucoup Fabrice d'avoir été avec nous. On va parler un petit peu de l'adversaire maintenant, Manu. L'Irlande, on va s'y intéresser avec notre spécialiste britannique Julien Laurence qui est toujours avec nous. Re-salut Julien.
Re-salut Flora, re-salut Manu, re-salut à tous.
Parce que finalement il y a beaucoup de joueurs qu'on connaît malgré tout, parce que la plupart évoluent en Première Ligue.
C'est ça, on va en Première Ligue, beaucoup en Championship aussi, en Ligue 1, donc la troisième division, le national ici en Angleterre. C'est vrai, il y en a en Première Ligue, tu as raison bien sûr, mais c'est vrai que la plupart dans cette équipe irlandaise qui essaie de chercher, de trouver une nouvelle génération avec Stephen Kenny comme sélectionneur, lui qui est l'ancien sélectionneur des espoirs aussi, donc il y a certains joueurs qu'il a bien connus étant plus jeune. C'est par exemple l'équipe qui a débuté vendredi, je crois, avait 24 ans de moyenne d'âge ou quelque chose comme ça, donc tu sens le renouvellement de cette génération-là. Mais c'est vrai que c'est des joueurs qui jouent pas dans les meilleurs clubs du monde, c'est pas du niveau de la France par exemple, et c'est une équipe qui est quand même assez laborieuse dans sa façon de jouer, avec une défense à 3 ou à 5, mais qui va poser des problèmes, je pense, un petit peu à l'équipe de France quand même, surtout à domicile, surtout à Dublin.
Et on va quand même parler, parce que parmi tous ces joueurs il y a une petite pépite qu'on découvre nous un petit peu, c'est Evan Ferguson, un nom bien connu.
Ouais, c'est vrai, c'est le fils de Barry Ferguson. Alors pour Barry Ferguson, il a pas non plus joué l'ancien joueur irlandais dans des très très grands clubs, mais un joueur de Coventry, un bon joueur de championnat anglais, voilà. Mais c'est vrai que son fils Evan.
Ça comme ça, ça fait vraiment. Hein.
Non, mais voilà, c'est pas non
un
plus.
Bon joueur de championnat anglais, quoi. Un bon
voilà, c'est
jeu,
ça. C'est
quoi.
Voilà, c'est ça. Exactement. En tout cas, il a pas le niveau il avait pas le niveau de son fils, qui lui est vraiment une petite pépite. Tu l'as dit, c'est un petit prodige. Il a 18 ans, il est d'octobre 2004. C'est un peu leur Mbappé à eux dans un sens. C'est-à-dire qu'il a très vite été très très fort, très jeune. Il a débuté avec les Bohemians à 15 ans. Il a joué en match amical à 14 ans, il a joué en match amical contre Chelsea déjà. À 15 ans, il a joué alors c'est la première division irlandaise. C'est pas du très très haut niveau, mais ça montre quand même la précocité.
Il n'y a pas de sous-division. Hein. Quand tu es bon. Hein. Donc à partir de là, tu peux jouer même si tu as 15 ans. Hein.
Oui, mais c'est
à l'époque, Paganelli, il a joué en première division, il avait, je crois, 15 ans ou 16 ans.
C'est ça, ouais, tout à fait. Pareil. Ouais, mais c'est vrai qu'on a vu très tôt, très tôt ses qualités. Et puis après, c'était, beaucoup de clubs anglais le voulaient. Il aurait pu aller à Liverpool, par exemple. Il aurait pu aller à Manchester United, qui est le club dont qu'il supporte, lui. Et il a choisi d'aller à Brighton, sûrement parce que je pense le chemin entre les équipes de jeunes et l'équipe première était sûrement plus judicieux à Brighton que dans un très, très grand club.
Oh, il aura le temps, puis, après.
Hein, à Brighton, il joue régulièrement.
C'est ça aussi. Bah oui, il y a une stratégie.
Ah oui, s'il va dans des grands clubs UP, il risque de cirer le banc. Hein.
Ouais, effectivement. Et juste dernier mot sur cette équipe. l'équipe d'Irlande avec toi, Julien Laurence, parce que c'est vrai qu'il y avait une équipe un petit peu plus joueuse quand même face à face au Bleu vendredi des Pays-Bas. Là, les Irlandais, t'en as parlé, c'est un bloc un peu plus défensif, une équipe plus regroupée a priori.
Tout à fait. Alors même si là, c'est vrai, vendredi contre les Lettons, ils ont eu le ballon, c'est normal. En face, c'était tellement faible. Mais pourtant, ils ont pris deux buts quand même. Hein. Ils ont gagné que 3-2. Mais oui, ils joueront avec cette défense à 5, ils seront beaucoup plus bas. Il y aura une vraie belle ambiance en plus à la Viva Stadium. Ça va, ce sera une autre bataille. Ce sera vraiment très différent de ce que les Bleus ont pu connaître contre les Néerlandais vendredi soir. À eux de s'adapter. Il faudra jouer sûrement différemment de ce qu'ils ont fait contre les Néerlandais. Mais je pense que ce sera un bon test pour voir l'adaptabilité dont parlait tout à l'heure Fabrice, de Didier Deschamps notamment et des Bleus.
Ouais, effectivement. Merci beaucoup Julien Laurence pour toutes ces infos à propos de l'Irlande. Un détour par la Belgique maintenant, Gent-Wevelgem, classique flandrienne en cyclisme avec Arnaud Souk. Où en est-on, Arnaud, dans cette course pluvieuse ?
Il pleut toujours, c'est ce que j'allais te dire, Flora, effectivement, sur la route de Gent-Wevelgem, et je pense que ça ne s'arrêtera pas, même si ça s'est calmé, hein, là, actuellement, sur la ligne d'arrivée. Mais j'ai comme la petite impression que les nuages vont se décaler sur Wevelgem dans quelques minutes et nous apporter la pluie là aussi. En tout cas, c'est détrempé pour les 14 hommes de tête. Mike Tennissen, le néerlandais, Greg Van Avermaet, le belge, ou encore le français, Sandy Dujardin, pour vous en citer quelques-uns. Ils ont toujours cet écart qui oscille entre 2:30 et 3 minutes d'avance sur le peloton. Les principaux favoris évidemment sont dans ce peloton, à l'exception de Michał Kwiatkowski tout à l'heure, qui a dû abandonner le polonais suite à une chute également pour le tenant du titre il y a quelques minutes, l'érythréen Binyan Girmay, qui a dû changer de vélo mais qui a pu se relever et réintégrer le peloton. À 105 km de l'arrivée, on va commencer les choses sérieuses, dont une dizaine de kilomètres, puisque ça sera la première des 9 ascensions du jour. Le Scherpenberg, c'est un petit mont, 1,2 km, on va dire c'est la Musbouche, 1,2 km à 3,4% de pente moyenne. Ça ne devrait pas faire une grosse sélection, alors que là on aperçoit l'un des potentiels favoris sur ces Flandriennes, le coéquipier d'Arnaud Démare, Stéphane Kung. Donc voilà, on verra dans une dizaine de kilomètres les premières escarmouches. Peut-être pour l'instant c'est notamment le Saint-Bernard de l'équipe Soudal Quickstep, le belge Tim De Klerk et sa grande carcasse, qui emmène le peloton pour maintenir l'écart à 2:30. Évidemment, il roule pour l'un de ses sprinteurs, Tim Merlier. Il y en a plein d'autres de sprinteurs qui peuvent s'imposer aujourd'hui. On peut penser à Jasper Philipsen, ou encore, justement, je vous parlais d'Arnaud Démare, eh bien on peut en parler. Abandon de Sam Bennett également, nous a-t-on signalé, l'Irlandais, qui lui aussi avait une carte à jouer aujourd'hui.
Merci beaucoup Arnaud. 14h24 dans l'intégrale sport sur RMC avec Manu Amoros. On revient dans quelques instants pour l'invité du jour, Julia Simon, vainqueur du gros club de Cristal en biathlon, sera avec nous pour nous parler de cette folle saison pour la tricolore. A tout de suite sur RMC.
RMC Intégrale Sport,
Flora Moussi. 14h27 sur RMC. Merci d'être avec nous dans l'Intégrale Sport avec Manu Amoros. On vous rappelle le rendez-vous hein, tout à l'heure à 15h, le départ du premier Grand Prix de la saison en MotoGP. Ça se passe au Portugal. On vous donnera tous les enjeux tout à l'heure. Mais d'abord, place à notre invitée du jour. Elle a illuminé la saison des sports d'hiver avec son sourire et surtout ses performances.
Ouais, Julia Simon qui appuie sur l'accélérateur, le dernier virage à droite. Elle a mis 5 mètres entre elle et Elisa Vitozzi. Ça va le faire pour sa troisième victoire de la saison. Elle remporte cette Mastart devant Vitozzi et Anaïs Chevalier-Boucher, doublé français. Et excellente opération au classement général pour Julia Simon.
Et c'est maintenant que ça va se jouer une première médaille mondiale. Denis Herman, Julia Simon. Julia repart, la dernière balle pour Denis Herman. La pression sur Denis Herman qui craque le titre mondial pour Julia Simon. Elle se prend la tête dans les mains, elle n'en revient pas. Julia Simon, le poing levé. Julia Simon, championne du monde.
À 26 ans, Julia Simon, au terme d'une saison exceptionnelle, va donc remporter le classement général de la Coupe du Monde. C'est la première Française à réaliser cet exploit depuis Sandrine Bailly en 2005.
Et oui, vainqueur du gros globe de cristal en biathlon, Julia Simon est avec nous. Bonjour Julia, merci beaucoup d'être avec nous dans le studio d'RMC.
Bonjour, merci.
Grande première, c'est ça
grande
pour
première.
Toi
ah ben, un grand plaisir.
Ben, partagé, parce que la saison elle est terminée. J'ai envie de te demander, est-ce que c'est bientôt les vacances ou pas tout de suite?
Il y a encore un petit peu des petites obligations, les championnats de France, donc ce sera ma dernière compète et après je vais prendre un petit peu de temps pour moi.
Ouais, parce que là il y a une saison quand même très chargée, couronnée de succès pour toi, je le disais, le gros globe de cristal, les petits globes de la poursuite et de la Mastart aussi. C'était l'année de Julia Simon en fait.
C'était l'année des premières fois.
Ah, c'est ça aussi.
C'était sympa, c'était une belle année. Je m'attendais pas du tout à tout ça, j'avais des objectifs mais qui finalement étaient bien plus bas que ceux-ci. J'avais espoir de découvrir décrocher un globe dans le futur, dans ma carrière.
Quand pas aussi vite, finalement.
Pas aussi vite, voilà. Mais c'était vraiment un super moment. Je me suis régalée, franchement. J'ai pris vraiment beaucoup de plaisir et course après course. Et ouais, cet hiver, finalement, c'est une grande fierté quand je regarde un petit peu en arrière.
Quand on regarde, nous, on se dit, c'est quand même beaucoup de souffrance aussi. Et toi, tu me parles de plaisir, tout ouais. simplement, à chaque course. C'est ça qui est fou.
Ce qui est fou, c'est d'écouter les sportifs parler, hein, globalement.
Oui, c'est ça. Il y a un décalage, parce que nous, quand on regarde, c'est très impressionnant. Mais tu as quand même, à 26 ans, décroché le titre le plus important en Coupe du Monde pour une biathlète. Quels peuvent être maintenant les objectifs que tu vas te fixer? Parce que tu me parlais d'objectifs un petit peu plus bas avant de décrocher ce gros globe. Maintenant, ça va être quoi? En décrocher d'autres le plus souvent possible? Qu'est-ce que ça va être?
Ouais, il y aura peut-être de ça aussi. Là, pour le moment, je me suis pas encore projetée sur la suite. La saison vient de se terminer, mais c'est sûr que le gros globe de cristal, c'est la récompense ultime pour un biathlète. C'est une fatigue, une pression mentale qui est vraiment longue tout l'hiver, qui ouais, c'est gérer la pression. Il y a tous les médias qui nous parlent tout le temps de ce globe, de ce maillot jaune. Donc c'est vraiment une belle case de cocher. Mais après, c'est plus technique, mais il y a des grandes championnes comme la Norvégienne Marte Olsbu-Røiseland qui annonçait vouloir préparer les championnats du monde et qui arrivait aux championnats du monde qui gagnait tout. Et sinon, l'année d'après, elle annonce le général, elle gagne le général. Et ça, ça force le respect. Et j'aimerais bien réussir à avoir cette capacité-là de me dire, j'accepte de faire des impasses pour performer à tel moment. Ouais. Donc peut-être que ce sera les objectifs futurs de réussir à me connaître encore mieux en tant que personne et qu'athlète et qu'on connaître encore mieux mon corps pour pouvoir cocher certaines courses et être présente le jour J.
Ouais, tu parles justement de cette connaissance de ton corps. C'est vrai que la spécificité du biathlon, c'est cet alliage finalement entre la vitesse et la concentration quand on arrive sur le pas de tir, arriver à gérer tout ça, ralentir son rythme cardiaque pour toucher les cibles. Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu as travaillé justement pour gagner en régularité sur les tirs?
Ouais, c'est quelque chose qu'on travaille en tant que biathlète depuis des années. Dès qu'on commence le biathlon, on travaille tout ça. Après, ça prend du temps, je pense. Pour moi, ça a mis du temps à venir, à se construire et à être régulier aussi. Il y a des fois aussi, il faut savoir s'adapter. Donc voilà, c'est un éternel recommencement, mais j'apprends encore. Ça fait 10 ans que je fais du biathlon et j'apprends toujours. Et je pense que jusqu'à la fin de ma carrière, j'apprendrai. Mais ce qui est bien, c'est que c'est comme un éternel recommencement. Le circuit on change d'étape à chaque week-end, donc on peut s'adapter, on doit s'adapter à la piste, les adversaires ont aussi un état de forme qui évolue, donc en fait c'est du jeu à chaque fois, c'est un petit peu de bluff parfois sur la piste. Voilà, c'est en tout cas pour moi c'est un jeu, c'est jouer avec l'adversaire, lâcher la première balle en premier, des choses comme ça, et c'est des choses qu'on a aussi, c'est du feeling aussi, donc c'est super.
Quand tu parles de cette adversité avec la proximité aussi de l'adversaire quand vous êtes sur le pas de tir, cette pression quand on entend l'autre qui lâche la première balle alors que nous on n'a pas encore commencé à tirer, la préparation mentale aussi, c'est quelque chose sur lequel t'as travaillé ces dernières années pour arriver à être encore plus performante et gérer cette pression?
Ouais, ça fait 2 ans que je travaille avec une préparatrice mentale qui est Marie-Laure Brunet, qui était une ancienne biathlète. J'avais besoin de trouver quelqu'un qui connaisse mon sport aussi, qui sache de quoi je parle et qui, des fois, peut m'apporter aussi son regard extérieur de sa carrière à son époque. Et c'est quelque chose d'important, je pense, d'être prêt mentalement aussi quand on arrive au tir. Il y a des jours où on est bien, où on est dans le flow, comme on dit, et ça arrive vraiment très très rarement. Donc les jours où on est un petit peu moins bien, il faut accepter qu'on sera un petit peu chablaté, on sera déséquilibré par l'adversaire. Donc voilà, il faut être préparé mentalement, il faut l'accepter et il faut quand même rester dans sa bulle, faire son truc. Et on sait pas, l'adversaire peut aussi faire une erreur. Donc il faut savoir, si la porte s'ouvre, il faut savoir saisir l'opportunité.
14h33 sur RMC dans l'Intégral Sport. On est avec Julia Simon, vainqueur du gros globe de cristal cette saison en biathlon. On parlait justement de cette spécificité aussi du biathlon féminin, parce que en masculin, il y a eu cette domination de Martin Fourcade, de Johannes Bö aujourd'hui. C'est un petit peu plus fluctuant finalement chez les dames. Est-ce que c'est pas vous finalement qui allez dominer maintenant ce biathlon féminin? Est-ce que tu sens que les regards ont changé aussi sur toi de la part des adversaires aussi, tout simplement? Tu es la femme à abattre maintenant?
J'ai peut-être été cet hiver, mais là l'hiver prochain tout repart à zéro. Mais je suis pas quelqu'un qui est dominé comme a pu le faire Johannes Bö chez les garçons. Donc en fait nos courses étaient vraiment très ouvertes. Il y a eu une super bataille avec la Suédoise Elvira Öberg tout le début de saison. Après elle est un petit peu tombée malade, elle a pas réussi à retrouver sa forme. Mais il y a plein de noms qui peuvent venir gagner une Coupe du Monde chez les féminines. Et ça, je pense que pour le public c'est super, et même pour nous. c'est top et ça ajoute vraiment du piment. Mais voilà, il faut tout repartir à zéro. Il faudra retravailler comme il faut cet été, pas se mettre de pression non plus. Et on verra. Mais en tout cas, ma saison était vraiment dans la régularité. J'ai été sur le podium un bon nombre de fois. J'ai pas été celle qui a gagné le plus non plus cet hiver. Mais voilà, il a fallu jouer sur la régularité et c'est ça qui a fait la différence. C'est les petits coups de moins bien, ne pas aller faire 60e, mais rester dans les 6 premières ou des choses comme ça. Et c'est là-dessus où moi, j'en tire une très grande fierté. C'était mon objectif du début d'hiver, c'était d'être régulière. Donc je pense que j'ai coché mon objectif. Et après, peut-être que plus tard, l'objectif sera de monter un peu plus sur la première marche ou voilà, de réussir à faire des courses encore plus construites. Mais je sais pas ce que donnera l'année prochaine. Mais en tout cas, cette année a été vraiment beaucoup d'apprentissage.
Et justement, cette année complètement folle, s'il y a un moment que tu devais retenir dans cette année, dans cette saison-là, ce serait quoi ?
C'est dur, hein ? Un moment, c'est dur. Un grand
peut-être
moment.
Peut-être le moment que t'es le plus ému ou qui a été le plus fort à vivre pour toi ?
Il y a forcément le titre au championnat du monde. Ça a été quelque chose de très fort parce que j'arrive quand même
en poursuite
avec
à Oberhof, ouais.
Poursuite à Oberhof en Allemagne, dans la Mecque du biathlon. Pour ceux qui suivent, ils peuvent vite se rendre compte que les Allemands sont des fous de biathlon.
Il y avait une ambiance de dingue, c'est vrai.
Ouais, c'était vraiment bien. Et il y avait surtout cette pression de ce dossard jaune, de me dire bon j'arrive avec ce dossard jaune. Je suis partie avec 1:03 de retard et la plupart des médias et des journalistes présents me disaient que c'était terminé. Voilà, j'ai pu encore une fois prouver que le biathlon c'était pas terminé tant qu'on n'avait pas passé la ligne. Et je pense que là c'était vraiment un grand moment parce que il y avait ce dossard jaune que depuis le début j'entendais un petit peu à droite à gauche dire que c'était un petit peu peut-être une chance que je l'ai ce dossard. Et donc j'ai pu prouver que non, c'était pas une chance, que j'ai su répondre présente. Voilà, je pense que ce moment-là a été très fort et sinon, je vais en choisir un deuxième quand même parce que c'est vraiment très dur d'en choisir qu'un. Mais la première fois que j'ai porté ce dossard jaune, la première fois, c'était sur une poursuite, encore une fois, à Orfilsen en Autriche. Donc ça, c'était en décembre. La première fois que je porte ce maillot, je suis un petit peu tendue, mais je vais réussir aussi une très belle course et je vais m'imposer pour la première fois avec ce dossard et c'était quelque chose d'assez fou. J'avais du mal à y croire parce que c'était un rêve de gosse de voir les champions courir en maillot jaune. Je me disais waouh, mais moi aussi j'ai envie de le mettre ce maillot jaune et je me suis retrouvée dans cette position là donc c'était quelque chose d'assez fou.
Ouais, il manque finalement, alors moi tu me dis que tu ne projettes pas encore trop sur les années à venir, il y a quand même un objectif évidemment à aller chercher pour toi aussi, c'est cette médaille olympique en individuel parce qu'il a l'argent en relais mixte à Pékin. Est-ce que ça tu l'as dans un coin de ta tête ou c'est quand même encore trop loin finalement pour y penser?
Non, je l'ai dans un coin de la tête, de ma tête.
Ça fait partie des grands rêves,
exactement.
Forcément.
Je pense que j'étais à peine rentrée de Pékin que j'avais déjà coché cet objectif pendant 4 ans. C'est sûr que Pékin est arrivé un petit peu trop tôt dans ma carrière, là. Un petit peu trop tôt. J'étais pas complètement à maturité dans mon biathlon. Il me manquait encore, trouver cette régularité, identifier les petits points, surtout dans mon tir, qui me permettraient d'être régulière. Donc, cette année, je l'ai trouvé et je me sens beaucoup plus sereine derrière ma carabine, beaucoup plus confiante quand je prends le départ d'une course. Donc j'espère que c'était pas qu'un coup de chance pour cet hiver et que je vais réussir à continuer sur cette lancée, à garder tout ça. Et j'espère vraiment que Milan sera un bon moment de biathlon pour moi. Ça fait plaisir de voir aussi les Jeux Olympiques qui vont revenir en Europe.
Exactement.
Ils sont quand même, je pense, nous ça sera pour le biathlon, ça sera en Tulsa, en Terre-Selva. C'est un endroit où on va chaque année et où le biathlon a une forte influence là-haut. Et donc j'espère que ça sera vraiment des bons moments.
Julia Simon est avec nous dans l'Intégral Sport sur RMC. Je vous ai présenté comme le sourire du biathlon français cet hiver parce que c'est vrai que côté masculin, la saison a été un petit peu plus compliquée, moins de régularité chez les hommes. Il y a eu le départ aussi des deux entraîneurs, Vincent Vitoz et Patrick Favre. C'est la fin d'un cycle aussi côté masculin pour le biathlon français?
Ouais, alors c'est difficile. On va analyser purement les résultats et dire la saison a été difficile pour les garçons, mais je pense que la saison a été difficile pour Quentin Fillon-Maillet qui a tellement mis la barre haute l'année dernière, qui était vraiment.
C'est ça aussi la pression aussi après les attentes.
Exactement. L'an dernier, il fait quand même une saison. Je pense que très peu de gens se rendent compte de la pression et des attentes qu'il peut y avoir derrière. Donc il a fait une année formidable, mais après si on regarde les résultats des garçons individuellement, il y en a beaucoup qui font leur meilleure saison. Donc il y a quand même de très belles choses, ce qui fait qu'on repart un petit peu déçus.
On a été mal habitués, finalement,
exactement.
C'est ça surtout.
Ça, et les Norvégiens ont eu une très très grande domination. Mais voilà, il y a quand même des très belles choses qui se sont faites cet hiver et je pense que le groupe masculin peut se construire pour le futur.
Merci beaucoup, Julia Simon, d'avoir été avec nous. Ça va, ça s'est bien passé.
Ça s'est bien passé, ça va.
Très bien, voilà, sur RMC. Merci d'avoir été avec nous. Bon repos aussi. Il faudra se reposer avant de démarrer à la saison prochaine et bonne chance pour les échéances à venir. Merci beaucoup. Merci. Un détour par la Belgique. Arnaud Souk, on suit Gand Wevelgem, cette classique flandrienne. Toujours sous la pluie, où en est-on avec notamment les favoris, tiens.
3h38 de course, Flora, depuis le départ ce matin à Ypres de cette 85e édition de Gand-Wevelgem. Déjà 165 km parcourus. Il en reste 95. Tiens, si on se plonge dans la feuille de route, ça veut dire qu'on est dans la première des 9 difficultés de la journée. Alors, c'est une cotonnette, hein. Scherpenberg, 1 km 200 à 3,4% de moyenne. A priori, ça ne fera de mal à personne. En tout cas, ça ne fait pas de mal aux principaux favoris, pas plus qu'aux 14 échappés. Je te recite quelques noms dans cette échappée. Mike Tennyson, notamment le néerlandais Greg Van Avermaet, le belge, et le français Sandy Dujardin. 2 minutes 13 secondes d'avance sur le peloton. On a vu la frimousse il y a quelques instants de Wout Van Aert pointé pour la première fois dans tête de peloton. On aperçoit également Binyan Girmay, on aperçoit les coéquipiers également de l'italien Filippo Ganna. Et puisque tu me demandais les favoris, on va évidemment citer les sprinteurs. On peut citer Tim Merlier côté belge, on peut citer Jasper Philipsen qui est même le favori des bookmakers aujourd'hui. On peut citer bien évidemment Pascal Ackermann, on peut citer également Dylan Groenewegen, et puis je vais te citer des profils, alors Arnaud Démare aussi pour les sprinteurs, des profils peut-être un petit peu moins sprinteurs mais plus puristes de ces courses flandriennes, pourquoi pas le belge Sepp Van Mark. On peut penser également à Tim Wellens, à Jesper Stuyven ou encore à Greg Van Avermaet qui est devant. Bref, ça en fait un bon paquet de favoris qui vont se disputer la victoire dans 93 km désormais, mais il devrait y avoir des dégâts dans les prochains kilomètres parce que les monts vont se succéder et ça va commencer à bastonner. La pluie qui diminue légèrement sur la route de Gand-Wevelgem.
Ouais, pour l'arrivée à venir sur les coups de 16h40 à peu près. Merci beaucoup Arnaud. L'Intégral Sport est de retour dans quelques instants, 14h41 avec Manu Amoros. On va parler MotoGP dans quelques instants pour le grand retour de la saison de premier Grand Prix au Portugal sur le circuit de Portimao. A tout de suite sur RMC.
RMC Intégral Sport.
Flora Messi. Merci d'être avec nous dans Intégral Sport sur RMC. Il est 14h43. Je suis toujours avec Manu Amoros qui se réjouit parce que c'est l'événement du jour. Manu, c'est le retour du MotoGP.
Oui.
Le premier Grand Prix de la saison au Portugal sur circuit de Portimao. Plaisir du coup de retrouver Jean-Luc Roy. Salut Jean-Luc.
Oui, salut Flora. Salut Manu. Et bonjour à tous.
Tu vas commenter ce Grand Prix tout à l'heure avec Paul Lafitte, départ à 15h. Salut Paul, plaisir aussi de te retrouver.
Salut Paul.
Salut Flora, salut Manu, bonjour à toutes et à tous. Évidemment, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle saison de MotoGP, comme tu le précisais.
On va planter le décor tout de suite, messieurs, avec la grille de départ, Paul. Et il faut regarder assez loin, malheureusement, pour trouver nos deux Français.
Oui, effectivement, Joan Zarco qui avait claqué le 10e temps des qualifications précédant le niçois Fabio Quartararo, mais comme Enea Bastianini s'est blessé hier, il souffre d'une fracture de l'omoplate, il ne va pas disputer cette course aujourd'hui, cette première course de MotoGP. Il sera donc absent de la grille de départ et forcément, eh bien les deux pilotes vont avancer d'une place. Zarco partira 9e, Fabio Quartararo 10e. Évidemment, beaucoup de déceptions lors de cette séance de qualification, notamment pour Fabio Quartararo qui attendait beaucoup mieux de sa Yamaha, mais on a déjà vu, on pourra en reparler évidemment tout au long de cet après-midi, que les Ducati, mais également la Honda de Marc Marquez ou encore les Aprilia étaient largement devant la Yamaha du niçois Florin.
On a une petite inquiétude, rassure-nous d'ailleurs, sur Fabio Quartararo lors du warm-up, un petit souci technique sur sa moto, est-ce que tout va bien ?
Oui, tout va bien. Une petite défaillance mécanique, c'était en début de warm-up sur sa M1, sa Yamaha. Mais le niçois a pu se remettre en selle assez rapidement pour aller claquer le deuxième temps de la séance de ce warm-up derrière la Ducati d'Alex Marquez et devant la Honda du poleman Marc Marquez. Donc tout va bien de ce côté-là. Il sera évidemment au départ et à 100% de ses capacités pour attaquer ce premier Grand Prix de la saison, Florent.
Jean-Luc, on a suivi hier la première course sprint de l'histoire. Tu connais déjà ça, toi, en F1. Mais là, ce sera le cas à chaque Grand Prix de moto GP qui, on le rappelle, rapporte des points au classement général pour les pilotes. Et on a déjà vu malheureusement un écart se creuser entre Pecco Bagnaia et Fabio Quartararo et pas à l'avantage du français.
Absolument. Bah écoute, c'est toujours le piège. Bonjour à Paul. Évidemment, on va partager avec grand plaisir ce micro et cette antenne pour ce premier Grand Prix. Oui, bah tu le disais, le sprint. Alors toutes les opinions sont valables. Personnellement, je suis assez réservé pour une raison évoquée par Paul il y a un instant. Eh bien, malheureusement, Enea Bastianini, qui est un des deux pilotes officiels de Ducati cette année, et pour lui, c'était évidemment formidable de s'élancer sous les couleurs rouges. Il s'est blessé à l'épaule, comme l'a dit Paul. Donc, il ne prendra pas part à cette épreuve. Et puis, on a vu également d'autres problèmes pour d'autres pilotes qui vont porter en quelque sorte le handicap. Alors, effectivement, c'est le premier départ officiel en MotoGP parce qu'on garde deux classements. Une victoire en sprint ne comptera pas comme une victoire en Grand Prix. C'est toujours un peu difficile à expliquer. Et on a déjà un classement au championnat du monde. Et on peut déjà dire, pour illustrer également le modeste résultat de Fabio Quartararo, qui a terminé dixième et premier à ne pas marquer de points, il part déjà avec 12 points de retard sur Pecco Bagnaia, qu'il a emporté devant Jorge Martin, 9 points, Marc Marquez, 7 points, etc. Donc, c'est sympa le sprint, parce qu'effectivement, ça donne une course supplémentaire, mais d'un autre côté, eh bien, on peut tout perdre aussi, et perdre beaucoup lors de cette épreuve-là, qui ne se disputait que sur 12 tours à Portimao.
Ouais, c'est risqué forcément. Manu, ton avis, toi, sur cette course sprint, on a entendu Fabio Quartararo, oui, qui n'est pas, pas du tout d'accord avec ce nouveau format. Évidemment, il a évoqué les risques, et on l'a vu, ça s'est effectivement vérifié hier.
Oui, complètement. Après, est-ce que les organisateurs veulent du spectacle et montrer aux gens
un petit peu, ouais, je pense.
Ouais, qui veulent montrer aux gens qu'on peut faire aussi une courte sprint comme on fait en F1. Alors c'est vrai que c'est dangereux. Il y a plus de possibilités aussi. On l'a vu hier, il y a eu un crash terrible et énorme qui aurait pu amener tout le groupe des poursuivants quand ce crash a eu lieu. Voilà, c'est prendre des risques supplémentaires et si jamais il y a des problèmes moteurs ou quoi que ce soit, est-ce qu'on a le temps de récupérer la moto pour le lendemain? Voilà, il y a pas mal de facteurs qui permettent de dire qu'aujourd'hui, course sprint en GP, c'est compliqué.
Ouais, Paul, on va quand même poser les bases de cette nouvelle saison de moto GP qui va partir d'ici 15h pour le Grand Prix du Portugal, le premier Grand Prix de la saison. Évidemment, c'est le duel entre les deux hommes qu'on a évoqué, Fabio Quartararo qui veut récupérer son titre de champion du monde, abandonné la saison dernière à Pecco Bagnaia. Est-ce que sa Yamaha va pouvoir lutter cette saison avec les Ducati? C'est la grande question, évidemment.
Oui, alors Flora, j'aurais envie de te répondre non, car au vu de la course sprint,
tu me tues le suspense dès le premier Grand Prix.
Non, mais au vu de la domination des Ducati, du retour de la Honda aux avant-postes, on rappellera que Marc Marquez a claqué la pole position ici au Portugal, de la confirmation de la bonne forme des Aprilia, de Vinales et d'Espargaro, et de l'émergence également, il faut en parler, de la KTM de Jack Miller, qui a quitté Ducati donc pour le team officiel KTM. On peut s'attendre à voir Fabio souffrir. Alors effectivement, la saison ne fait que démarrer, et le Niçois reste avec Bagnaia, sans compter le meilleur pilote du plateau MotoGP, et avec une équipe Yamaha qui a changé beaucoup de choses durant l'intersaison, on peut s'attendre effectivement à voir le vice-champion du monde, le Niçois, rebondir puisque la saison ne fait que démarrer. Mais quelques doutes, hein, il les avait eu durant les premiers essais qui ont été un petit peu tout a été un petit peu mieux lorsqu'il a récupéré de la vitesse de pointe sur sa Yamaha, mais c'est beaucoup de doutes encore dans la tête du pilote, et cette première séance de qualification l'a confirmé. 11e seulement, il faudra batailler. On espère que Fabio, avec ses qualités de pilote, arrivera à émerger bien entre les Ducati et les Aprilia. Mais sur le papier aujourd'hui, et Jean-Luc, je pense, pourra le confirmer, ça semble quand même un petit peu compliqué et nettement à l'avantage des Ducati.
Ouais, même si c'est vrai, Jean-Luc, quand même que le Français, il n'a pas pris de vacances à l'intersaison. Il a bossé, sans doute vexé par cette fin de saison dernière un petit peu compliquée. Il le disait, il est prêt et déterminé. Mais c'est vrai que c'est frustrant quand on n'a pas la moto pour à hauteur de ses ambitions aussi.
Ben oui, c'est extrêmement frustrant. Effectivement, il avait mis une pression maximale sur les ingénieurs de Yamaha, et Paul vient de l'évoquer, avec notamment ce handicap de puissance, de vitesse de pointe, qui était très facile à constater, puisqu'il rendait parfois 5, 6, 7, 8 km heure en ligne droite, et même à l'aspiration, c'est très difficile à compenser, et on est obligé de le compenser, ben évidemment, au freinage et dans les courbes. Et donc, c'est, d'une part, c'est épuisant, ça fait prendre beaucoup de risques, et puis c'est une compensation. Le problème, il est là. On peut y ajouter peut-être des départs parfois un peu moyens. Alors je ne sais pas si c'est dû là aussi à la machine. Il y a des systèmes de start extrêmement performants, comme en Formule 1 d'ailleurs, mais sur les motos, c'est le cas pour les Ducati. Puis les Ducati, quand on dispose d'un maximum de puissance, après le seul problème, c'est de ne pas trop dégrader les pneumatiques. Mais ça, on peut faire confiance évidemment aux pilotes Ducati. Puis on a vu cette armada Ducati se positionner aux avant-postes. Alors il y a la Honda, mais moi je dirais c'est quand même le talent de Marc Marquez, parce que si on regarde les autres pilotes Honda, ils sont très très loin, notamment son nouvel équipier Joan Mir, qui partira 13e sur la grille, en plus avec un long lap, une pénalité, parce qu'il est venu percuter Quartararo justement hier pendant le sprint. Donc il aura une pénalité, donc on n'en parle pas de Joan Mir. Alex Rins, l'autre espagnol de Honda,
lui partira 15e, et puis on a encore le japonais Takaaki Nakagami qui lui partira 17e. Donc c'est bien un talent exceptionnel de Marquez qui apparemment a enfin récupéré des problèmes qu'il avait subis au bras droit en 4 opérations quand même.
Le talent de Marc Marquez, ça Manu, a priori on n'avait pas trop de doutes là-dessus. Ton avis toi Manu, tiens, sur cette saison à venir, est-ce que Fabio Quartararo va réussir à détrôner Pecco Bagnaia qui semble quand même très très fort, et puis le rôle peut-être de Joan Zarco aussi dans tout ça, 7e saison pour lui en MotoGP hein.
Oui, ça, Zarco peut faire un meilleur championnat que Quartararo, à mon avis. On parlait tout à l'heure de perte de vitesse qu'il avait sur les autres motos, mais c'est un problème récurrent puisque l'année dernière, il avait déjà en début de saison des pertes de vitesse, donc qui l'amenait chaque fois à prendre des risques, comme Jean-Luc le disait, dans les courbes où c'est toujours compliqué d'être bien positionné, mais ça aussi dans le freinage, puisque plus tu perds, plus tu retardes ton freinage et plus tu prends des risques. Donc voilà, donc moi je pense que Zarco a une meilleure chance aujourd'hui que Quartararo.
Eh bien on verra tout ça, départ à 15h avec donc Paul Lafitte et Jean-Luc Roy. Merci beaucoup messieurs, je vais vous laisser avec Christophe Cessieux dans quelques instants pour le départ du Grand Prix. Vous allez nous faire vivre tout ça comme il se doit. Un dernier détour par la Belgique parce qu'on court toujours du côté de Gent-Wevelgem, Arnaud Souk. La pluie s'est un petit peu calmée, on va se rapprocher des derniers kilomètres. On en est où là?
On court toujours, on court plus que jamais même, Flora, 85 km de l'arrivée. On vient de passer pour les hommes de tête et pour le peloton, surtout la montée du Banneberg. C'est la deuxième difficulté de la journée. Je vais insister sur ce petit point. Je vous rappelle rapidement qu'il y a 14 hommes devant qui ont moins de 2 minutes d'avance, dont Mike Tennyson, Greg Van Avermaet et Sandy Dujardin. Ça, c'est l'échappée matinale. Mais pourquoi j'insiste sur le fait que le peloton a passé le Banneberg? Parce qu'un Allemand, Nils Polit, a sérieusement accéléré en haut de ce Banneberg, monté à 10% de moyenne. Et il a fait exploser en 1000 morceaux le peloton. On a vu des coureurs en grande difficulté qui sont en train de rentrer. Je pense notamment à Arnaud Démare qui a sauté dans cette accélération de Nils Polit. En revanche, très très bien placé, des coureurs comme Wout Van Aert, comme Pascal Ackermann sont devant, et bel et bien devant Filippo Ganna également pour l'équipe Ineos. Il reste 85 km donc encore à parcourir et tout reste à faire. Il y a encore 7 ascensions aujourd'hui dans ce Gent-Wevelgem.
Merci beaucoup Arnaud, suspense total. Merci beaucoup Manu Amoros.
Merci Florent.
Vous avez été avec moi dans quelques instants sur AMC. Vous avez rendez-vous avec Christophe Cessieux pour le départ du premier Grand Prix de la saison en MotoGP. Ça se passe du côté du Portugal. A tout de suite sur RMC.
RMC Intégral Sport.